recoupe. Hein, dans la... Donc, on verra ça un peu après. Donc, c'est un affect qui n'est évidemment pas comme les autres. Il est privilégié dans la psychanalyse, mais aussi dans la psychiatrie, puisque c'est une des raisons essentielles pour lesquelles les patients vont consulter ou entament une psychanalyse. Ce n'est pas l'unique raison, hein, loin de là. On a tendance à dire, oui, j'ai commencé ma psychanalyse parce que j'étais très angoissé, taratata. C'est complètement faux. Il y a énormément de cas où, par exemple, moi, je n'ai jamais été angoissé. Et l'angoisse, elle est venue après. Je dirais, c'est pas la peine d'aller chez le suivre une psychanalyse pour être angoissé. Mais quand vous avez lu Inhibition symptômes angoisse, vous comprenez pourquoi. Bon, alors, si vous voulez, chez Freud... Oui, parce qu'on peut très bien avoir autre chose que de l'angoisse, en particulier des inhibitions qui remplacent l'angoisse. On va voir ça un peu après. Donc, chez Freud, l'angoisse est liée principalement aux névroses et tout particulièrement aux phobies et à ce qu'il a appelé la névrose d'angoisse. Une névrose qui est caractérisée comme symptôme principal par une angoisse épouvantable. C'est le symptôme envahissant, c'est toujours en général, enfin dans les traités de psychiatrie encore, qui deviennent anciens, parce que maintenant les traités, tout ce qui est américain, là, les nouvelles nosographies américaines, de DSM, je ne sais plus, on en a 5 maintenant, éliminent complètement l'hystérie, tout ça, il n'y a plus que des symptômes, c'est morcelé, il n'y a plus d'hystérie, il n'y a plus de tout ce dont je vous parle, n'existe plus dans la psychiatrie américaine, ce qui provoque à mon avis des catastrophes absolument épouvantables dans les hôpitaux. Alors, chez Freud, c'est lié principalement à ce qu'il a identifié comme des névroses, mais qui à l'époque recouvrait beaucoup plus que les névroses d'aujourd'hui. Ça recoupait au début surtout à la fois les névroses et les psychoses. Il y avait les... Enfin bon, c'est secondaire. Et tout particulièrement, donc je l'ai dit, aussi. Et il fait... Alors, ce que je... s'applique aussi aux névroses. Toutes les névroses ne sont pas accompagnées obligatoirement d'angoisse. Hein. La névrose obsessionnelle et même l'hystérie que l'on appelle l'hystérie de conversion, ça marche bien, que ça élimine totalement l'angoisse. Et dans les hystéries de conversion, on n'en voit plus beaucoup aujourd'hui, mais ça se voyait beaucoup au XIXe siècle, par exemple. C'était surtout des femmes. Freud a montré qu'il n'y avait pas que des femmes. C'est le premier à avoir montré qu'il y avait des hystéries, des hystériques hommes, mais c'est très rare quand même, surtout à l'époque. Et l'hystérie de conversion, par exemple, l'hystérique est paralysée de la jambe ou des deux jambes, ou un problème de vision. Enfin, il y a tout un tas de symptômes typiques qui se traduisent au niveau du corps, mais ce n'est pas des somatisations. Parce que, si vous voulez, dans l'hystérie de conversion, par exemple, la paralysie de la jambe s'arrête à une ligne. On appelle ça une paralysie en c'est-à-dire que l'hystérique, ne sachant pas que les nerfs remontent jusqu'à la moelle épinière, elle arrête sa paralysie à un endroit bien net qui s'arrête à peu près à la hauteur d'un bas. Et donc, en réalité, ça devra monter jusqu'en haut, mais il n'empêche qu'elle ne ressent rien quand même. Hein, c'est ça. Donc la conversion, c'est un phénomène extrêmement mystérieux qu'on n'a encore jamais expliqué. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans les hôpitaux, on ne sait pas absolument pas comment soigner les hystériques. En règle générale, on les envoie chez le psychologue, ce qui était mon cas. Je suis professeur à l'université, j'étais à l'hôpital, et on m'envoyait systématiquement les névrosés parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Les médicaments ne marchent pas, donc on ne sait pas quoi en faire, on les envoie au psychologue. Bon. Alors, là, c'est un cas particulier puisqu'elle ne ressent pas d'angoisse, mais à la place, crac, elle est complètement paralysée, par exemple. Ou alors, elle ne voit plus que... Par il y a des termes savants, elle ne voit son champ de vision illimité. Ou bien, bon, il y a des symptômes comme ça qu'on appelle des symptômes d'hystérie de conversion. Qui aujourd'hui sont quand même assez rares, on en voit de moins en moins. Et là, il n'y a pas d'angoisse. Et pourtant, ce sont des choses très proches des phobies, et des névroses phobiques et des névroses d'angoisse. Alors, se manifeste phénoménologiquement de façon souvent extrêmement spectaculaire, puisqu'elle est accompagnée de troubles physiologiques inquiétants, des palpitations cardiaques accélérées, des troubles respiratoires, qui sont fréquents, et une espèce de sensation très désagréable, évidemment, qui se situe un peu là, autour du diaphragme, de resserrement, de quelque chose qui se noue, etc., etc., avec des degrés évidemment différents, divers. Et ce qui la différencie fortement d'états qui sont très proches, comme par exemple le deuil, ou bien la douleur, qui sont différentes, parce que normalement, ne sont pas accompagnées de ces phénomènes physiologiques un peu spectaculaires. Alors, dans la théorie freudienne, il s'agit donc d'un état de déplaisir, dit-il, dans ses premiers textes, qui s'accompagne d'actions de décharge, qui se traduisent au niveau donc somatique par des sensations et des innervations. C'est ce que je viens de vous dire, toutes ces sensations, palpitations cardiaques, etc., etc. Troubles respiratoires, bon. Donc décharge, ça c'est toutes les théories freudiennes, sont fondées là-dessus, décharge et sensations et innervations. Médicalement, on peut la considérer comme un symptôme, et aujourd'hui, vous savez bien qu'on dispose d'une ample panoplie de médicaments. Freud pensait qu'on trouverait un jour des médicaments pour soigner absolument tous les troubles psychiques. Freud est un je pense que vous le savez, mais on ne sait pas assez, c'est un scientifique pur et dur, hein, Freud, c'est un médecin psychiatre. Il n'était pas médecin psychiatre au début, il était physiologue, il était dans les grands, grands laboratoires de Vienne de physiologie et de neurophysiologie. Donc il est parti, ses premières recherches, c'est sur le système nerveux de l'anguille, non, c'était sur les testicules de l'anguille mâle au début, parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'anguille mâle, c'est une grande, très compliqué. C'était un darwiniste absolument convaincu, et toutes ses recherches sont des recherches scientifiques dures. On dirait aujourd'hui, c'est vraiment dur, dur, mais très dur. Hein. On ne peut pas faire plus de pointes que les recherches qu'il a faites, qui ont débouché sur la physiologie du système nerveux. Il a failli découvrir les neurones, par exemple. Il était à deux doigts de le faire. Et puis, ça a été découvert par un Espagnol. C'est la seule chose qu'ils ont découvert. Je parle d'Espagnol. Hein. C'est Ramon y Cajal qui a découvert, qui a mis Mais lui, il a failli découvrir, prouver l'existence des neurones. Mais il avait une théorie neuronale, alors qu'on pensait que le système nerveux, que les nerfs étaient comme une espèce de corps. Et lui, il a pensé que ce n'était pas des cordes et qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des synapses, etc. Et c'était déjà dans la théorie freudienne. C'est vraiment, contrairement à l'idée préconçue que l'on a, Freud n'est pas une espèce de philosophe délirant, un moitié mystique, en fait des choses un peu délirantes. C'est vraiment... Bon, il s'est orienté vers la psychiatrie parce qu'il avait besoin de gagner de l'argent et qu'il a ouvert un cabinet et qu'il essayait de soigner patiente qui était très souvent hystérique et qui avait ou des phobies, des symptômes de ce genre, des névroses en général. Il a commencé à gagner sa vie comme ça et après avoir essayé toute une série de traitements, il en est arrivé à mettre sur pied la cure psychanalytique, mais ça n'a pas été tout de suite. Hein. Et donc, voilà. Alors, donc il a un vocabulaire très précis sur le plan médical et il dit que sur le plan médical, elle peut être considérée comme un symptôme. Et qu'aujourd'hui, nous disposons, enfin moi je dis maintenant, ce qu'il avait prévu, il pensait que tous les phénomènes cérébraux étaient chimiques. Freud dit, bah, pour l'instant, on va chercher, si vous voulez, psychologique pour traiter les maladies nerveuses, mais un jour on découvrira ce qu'on appelait aujourd'hui les neuromédiateurs. Voilà, comme il ne connaissait pas ce que c'était, il ne donnait pas le nom, mais il disait que c'était un matérialiste convaincu, Freud, vraiment un darwiniste, un matérialiste qui pensait que donc tout serait soignable par, contrairement à ce que l'on croit. Ce qui est complètement faux, c'est totalement des idées vraiment préconçues. Donc aujourd'hui, bon, on a toute une panoplie d'anxiolytiques contre l'angoisse, que vous connaissez très bien, puisque les Français sont les premiers consommateurs au monde d'anxiolytiques. C'est, alors pour vous dire, c'est des benzodiazépines principalement, donc vous avez le Valium, ça vous connaissez, le Lexomil, qui a un grand succès parce que je coupe un petit morceau, le Xanax, enfin toutes ces choses-là, c'est des benzodiazépines qui ne suppriment évidemment pas les symptômes, mais qui atténuent les symptômes et qui ne soignent pas sur le fond, bien évidemment. Et alors il y a beaucoup d'autres choses qu'on appelle des drogues, mais en médecine, en pharmacologie, on appelle tout ça des drogues. Hein, c'est la benzodiazépine, c'est une drogue dans les cours de la fac, hein, de médecine, de psychologie et de pharmacie. Toutes les drogues soignent grosso modo les angoisses. Hein. Presque beaucoup de drogues, le hashish, bien évidemment, beaucoup de drogues, hein, Vous le savez très bien. Bon, alors, l'ennui, alors donc à un état de déplaisir, et se substitue un état de plaisir, évidemment relativement artificiel et momentané, le déplaisir réapparaît, le soulagement est précaire, et ensuite, comme on n'a pas traité sur le fond, ça réapparaît. Alors c'était c'est très visible chez les psychotiques, ceux qui vont avoir, qui pressentent, qui vont avoir des crises d'hallucination, qui vont se mettre à décompenser chez les psychotiques, ils sont des gros consommateurs de drogue, en particulier de la chiche, et ils peuvent en fumer en permanence, vraiment à part temps, en étant systématiquement drogués, pour éviter l'angoisse atroce les psychotiques quand ils décompensent. Alors, c'est que maintenant, mais Freud n'en parle pas, parce qu'il généralise en parlant de l'angoisse générale, il y a plusieurs sortes d'angoisse, elles n'ont pas toutes la même intensité, et elles sont variables suivant, aujourd'hui on parle d'angoisse de castration, d'angoisse de morcellement, d'angoisse, enfin des angoisses qui sont typiques soit des névroses, soit des psychoses. Freud parle surtout des angoisses de type névrotique dans les deux séries d'ouvrages dont je vais vous parler. Alors, il ne s'intéresse donc pas à l'aspect physiologique, puisqu'il s'est spécialisé dans les traitements psychologiques des malades. Il a essayé l'électrothérapie, l'hydrothérapie, il a tout essayé avant d'essayer la psychanalyse, et rien ne marchait. Personne n'arrivait à soigner ces gens-là, donc il a inventé la cure psychanalytique, et ensuite il s'intéresse au processus psychologique qu'il essaye de déterminer par en dessous, et non pas au processus physiologique, ce qui est normal. Donc, on peut distinguer donc dans ces théorisations qui se fondent toujours sur une étude très précise de cas cliniques. Ils n'inventent pas des théories qu'ils plaquent sur les malades, bien évidemment, on s'en aperçoit en lisant son œuvre, c'est à partir de l'observation des malades qu'il va tirer des conséquences sur le plan théorique. Alors, dans une première phase, l'angoisse est, dans un premier temps, donc envisagée comme une transformation de la libido non satisfaite. Ce qui était une idée assez courante au XIXe siècle, on ne le criait pas sur tous les toits, mais avant Freud, beaucoup de médecins le pensaient. En particulier que les hystériques étaient dans cet état-là parce qu'elles n'avaient pas satisfaction sexuelle. Ce qui était pas tout à fait faux d'ailleurs, hein, puisque les femmes ont été évidemment des troubles de la bonne bourgeoisie menaient une vie particulière, les femmes de la bourgeoisie de l'époque, et qui étaient presque toutes hystériques, chose qui a pratiquement disparu aujourd'hui avec les transformations de la société, du statut des femmes bien évidemment. Alors, on a, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'hystérique du tout, mais ça n'a pas les mêmes formes, en particulier pas ces formes très spectaculaires que ça avait à l'époque. Et donc il avait pensé tout d'abord, d'une façon moins grossière que les médecins de son temps, puisque Charcot pensait la même chose, hein, c'était son grand maître Charcot quand il est venu à Paris en 86, et il pensait lui aussi, Charcot, que, disait une bonne dose de pénis, je ne sais pas quoi, il disait ça en latin pour pas mais du domaine courant à l'époque, à cette idée que la non-satisfaction sexuelle entraînait des troubles psychiques. Et donc c'est la première théorie qui est que la frustration entraîne une apparition de l'angoisse par transformation de la libido, en particulier dans une des cinq psychanalyses qui traitent de ce sujet, et non pas à propos d'une femme, mais à propos d'un petit garçon. Hans, qui est un des cas traités dans les cinq psychanalyses. Je parlerai évidemment abondamment. Ensuite, dans un deuxième temps, Freud remanie sa théorie après la guerre de 14, à la suite de très nombreux cas de névrose traumatique due à la guerre, et est obligé de remanier, pas complètement, mais en très grande partie, ses théories, à cause de tous les cas d'épouvantable névrose traumatique qu'il y a eu à cause de la guerre de 14. Donc c'est pas quelqu'un qui vit dans sa petite bulle, là, il est au contact quand même de la réalité. Il y a tellement de cas de névrose, d'ailleurs on ne les a pas montrés, moi j'ai vu à la télévision il y a peut-être 2 ans, même c'était quasiment secret toutes ces histoires. Hein. J'ai vu des documentaires, puisqu'il y avait déjà des photos évidemment, mais aussi des débuts de films. On voit les malades qui ont été traumatisés pendant la guerre de 14, c'est absolument atroce. Hein. Pour une marche dans un hôpital, parce qu'il pose des obus qu'il a arrêté de passer dessus, il reste dans cette position. On ne peut pas les faire pendant des choses, et puis d'autres absolument épouvantable que Freud essaye de théoriser. Donc il remanie cette théorie en la complétant et en l'intégrant à ses nouvelles conceptions, donc à cette élaboration de la deuxième topique après 1920. Et on en trouve l'expérience plus complète dans un petit livre qui n'est pas si facile, mais pas non plus très difficile, qui s'appelle Inhibition, symptômes, angoisse, qui a été publié en 1926. Alors, premièrement, premier état de la théorie freudienne, la phobie de Hans, et qui en est l'illustration. Alors, c'est un livre, je ne sais pas très bien, je crois qu'il est de 1905, mais qui paraît en 1909, c'est pas ce que j'ai compris, ou alors je me suis trompé en écrivant. Je crois que c'est 1909. Et dans ce livre, il analyse une phobie chez un petit garçon de 5 ans, qui s'appelle le petit Hans, qui est le fils d'un médecin. Et il retrace de façon extrêmement détaillée, probablement, ce qui est le premier cas d'une psychanalyse d'enfant. Alors, vous savez que Freud excelle dans la rédaction de cas cliniques, c'est quelque chose de très très difficile à écrire, et que le seul prix qui vous engage à le lire, c'est vraiment, ça se lit honnêtement comme un roman, et que la seule récompense que Freud ait jamais eue dans sa vie, c'est le prix Goethe, qui est un prix extrêmement prestigieux en Allemagne en 1930, pour la qualité littéraire de ses œuvres. Et c'est absolument mérité. On vient de faire un colloque à la Sorbonne, ça s'appelle « Les transferts littéraires », vendredi et samedi, justement on a beaucoup abordé tout ça, et c'est vrai que le style de Freud est tout à fait remarquable, hein, et qu'il a un don de narrateur, c'est extrêmement difficile de résumer, même en 50 pages, le cas de quelqu'un que l'on a vu pendant plusieurs années, par exemple. C'est un exercice extrêmement compliqué, et qui réclame les grands talents d'écrivain, et quasiment de romancier. Ce sont des petits romans, en fait, extrêmement intéressants. Et donc là, c'est un cas tout à fait original puisqu'il s'agit d'un enfant et que ce n'est pas lui qui a traité l'enfant. C'est le père de l'enfant qui s'en est occupé. Alors, il explique tout ça en introduction. Il transmettait à Freud au fur et à mesure ses observations et lui demandait conseil. Et Freud n'a vu l'enfant qu'une seule fois. Mais l'enfant savait que son père était en rapport avec Freud et qu'il écrivait régulièrement au professeur. Parce que Freud était très fier d'être professeur extraordinaire, ce qui veut dire que c'est beaucoup moins que professeur ordinaire, hein, en Allemagne. Ça veut dire l'équivalent un peu de maître de conférence, l'autre c'est professeur. Et donc, donc il était quand même en contact avec Freud, on peut penser, c'est quand même une psychanalyse enfin un peu particulière. Freud n'était pas quelqu'un de très rigide à ce niveau-là, mais ça y est, puisque ça n'existait pas, la psychanalyse avant lui, donc il essaye de tas de choses qui aujourd'hui peuvent sembler absolument scandaleuses, ou mais les gens disent souvent n'importe quoi. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement intéressant. On voit d'ailleurs qu'à la fin, il dit très nettement, moi, si ça avait été moi qui avais traité l'enfant, j'aurais fait telle et telle chose, mais je n'ai pas voulu intervenir, j'aurais dit telle et telle chose à l'enfant, mais si les parents n'ont pas voulu le faire, je ne veux pas me substituer aux parents. Je ne l'ai pas dit, je ne leur ai même pas dit de le dire. Il a suggéré, les parents n'ont pas voulu. Bon, c'est pour vous montrer un peu sa façon de faire, hein, un très grand acte, hein, au niveau, c'est pas dans son intention d'interférer sur l'autorité parentale, par exemple. Il y a beaucoup de psy qui feraient bien d'en prendre de la graine. Alors, l'intérêt de l'observation est qu'elle confirme de nombreuses hypothèses que l'on avait faites dans des analyses d'adultes. Les premières communications relatives à Hans datent en fait, sont antérieures à l'éclosion de sa maladie. Freud avait encouragé ses élèves à observer les enfants pour accumuler des observations permettant d'asseoir et d'approfondir ses hypothèses sur la sexualité infantile. Alors là, il ne faut pas se tromper, hein, je n'ai pas l'habitude, ce que Freud appelle la sexualité infantile, c'est quelque chose de très particulier, c'est tout ce qui est en rapport avec le sexuel au sens très large du terme. Tant bien entendu qu'un enfant d'un an ou de deux ans n'a pas la sexualité d'un adulte, bien évidemment, et c'est le problème, il vient de là, justement, il ne comprend absolument pas ce qui se passe. Donc, quand on parle de sexualité, c'est ces satisfactions orales, enfin de toutes sortes, mais qui n'ont rien à voir avec la sexualité soi-disant adulte et soi-disant normale, entre guillemets, Freud récusant totalement le terme de normalité dans la sexualité. Hein. Là, ça veut dire la normalité, c'est ce que personne ne réalise. Hein. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut se mettre dans la tête avant de raconter que Freud est ceci et cela, quasiment complètement rétréci, taratata, ou toutes ces histoires sur le patriarcat, enfin, toutes ces imbécilités. Freud n'a jamais pensé, lui, il pense, il dit, moi, d'ailleurs, il pense que la morale sexuelle n'existe pas. Hein, que c'est une norme qui est imposée par la société et que il y a la morale, il y croit, mais pas la morale sexuelle. Chacun se comporte comme il le peut. Il dit, moi, j'ai jamais profité de la liberté sexuelle, parce que, bon, parce qu'il travaillait, ça me semble difficile, mais il n'y avait vraiment aucun préjugé à ce sujet, on s'en aperçoit en lisant des lettres, etc. Et ses œuvres, en général, contrairement à ce qu'on a raconté, qui est totalement faux, il suffit de le lire, c'est tout, hein, c'est pas très compliqué. Donc, si vous voulez, ce qu'il entend par sexualité infantile, bah, bien au-delà de la sexualité telle qu'on l'entend d'un adulte, bien évidemment. Alors, chez cet enfant, qui a été observé avant l'âge de 3 ans, avant que n'apparaissent ces troubles, on s'aperçoit que tout d'un coup, à la naissance de sa petite sœur, ça c'est absolument logique, apparaissent des troubles tout à fait nouveaux, et une phobie, et cette phobie c'est la peur d'être mordu par un cheval, dans la rue, évidemment, par un cheval, et ça c'est vers l'âge de 5 ans. Alors, il a peur. Alors, cette peur, sa mère la met en relation avec la masturbation infantile, parce que vous savez très bien que les enfants se masturbent, contrairement à ce qu'on a imaginé, que c'est même très fréquent, et quasiment même de tous, mais à l'époque, on ne voulait pas l'admettre. Mais la mère, une bonne fois, elle s'aperçoit que son petit garçon est masturbé, et elle le met sur le compte de la masturbation, ce que Freud a récusé formellement par la suite. Hein. Et c'est lui qui lui avoue, hein, c'est le petit garçon qui lui dit ce qu'il veut, parce que bon, il ne pense pas que c'est mal, donc il lui raconte. Et tout. Alors, l'enfant a des sentiments extrêmement angoissés, et il a des rêves d'angoisse, où il perd sa mère, et il ne peut plus faire câlin avec elle. C'est ça la sexualité infantile, hein, c'est tous les rapports avec la mère, avec le père, etc., qui sont très complexes. Et faire câlin avec sa maman, ça fait partie de la sexualité infantile, d'ailleurs, et adulte aussi. Enfin, avec sa mère, non, mais avec le substitut, bien évidemment. Alors, Freud va rattacher l'angoisse qui se manifeste à ce moment-là au complexe de castration, bon, qu'il a mis en évidence de façon très nette. Et, alors bon, il devient évident, il est hors de question de résumer ce cas qui est très très compliqué. Je vous engage à le lire, c'est intéressant. En même temps, vous voyez comment Freud procède. C'est très complexe, c'est très précis, on revient sans arrêt. Enfin, c'est vraiment assez compliqué, mais très intéressant. Et alors, il dégage chez l'enfant de très forts désirs libidinaux très flous, bien évidemment, concernant la mère. L'enfant, tout d'un coup, s'est retrouvé seul à Vienne après une période de vacances près de, en Autriche, c'est autrichien évidemment, à Gmunden, si vous le savez, où il jouait à la campagne avec tout un tas de petits camarades, et puis tout d'un coup, il se trouve tout seul. Donc évidemment, tout se trouve concentré sur la mère, alors qu'il avait plein d'amis, des petites filles, des petits garçons avec qui il jouait, se trouve seul, et toute sa libido donc se concentre sur la mère, qui évidemment est interdit, ce qui est quand même logique, dans une famille un peu saine, et toute satisfaction est bien évidemment impossible. La libido, alors, se transforme en angoisse, alors c'est Freud dans cette première théorie, elle ne se décharge pas. Il y a une théorie de la décharge, et le plaisir serait simplement la diminution d'une tension. Chez Freud, il a une conception très très de physicien, si vous voulez, homéostatique, on a dit, c'est-à-dire qu'il y a une tension, alors la faim par exemple, il y a une tension très importante, et puis quand vous mangez, par contre, ça descend, d'ailleurs, la tension sexuelle c'est pareil, c'est qu'à le dire, vous avez une tension, et ensuite il y a une détente, une fois que la tension, et donc il envisage ça, mais sous la forme, évidemment, vous allez avoir votre esprit là, sous forme, parce que c'est aussi valable pour la femme, d'une décharge pulsionnelle qui va entraîner une baisse de la tension, et donc du déplaisir. Le plaisir, c'est en fait la disparition d'un déplaisir, puisque l'état de désir extrême n'est pas agréable. En règle générale, qu'on essaye de satisfaire ce désir, c'est pas forcément agréable, et c'est après que la détente va s'opérer, et qu'on soit ça toujours comme ça. Donc, puisque ça ne se décharge pas, à ce moment-là, l'angoisse va apparaître à la place. Ça, c'est sa première conception. Alors, Freud explique que aucune satisfaction ne peut engendrer l'angoisse. Ça, c'est bon à se mettre dans la tête, mais en plus, il a raison. Hein. Donc, par exemple, c'est pas parce qu'un enfant se masturbe qu'il va être angoissé. Pour Freud, c'est complètement idiot. Il dit au contraire, quand il y a décharge, il y a une satisfaction, donc il n'y a aucune raison objective d'être angoissé. C'est vrai. Enfin, pourquoi, quand on éprouve un plaisir, on sera angoissé après? C'est complètement idiot comme idée. Or, c'était une idée couramment répandue à l'époque et parfois aujourd'hui encore. Bon. Et donc, il rejette absolument l'hypothèse que l'angoisse provienne de la masturbation qui aurait entraîné son surgissement. Alors, mais, dit-il, autre chose qui est aussi très intéressante pour ceux qui vont suivre des psychanalyses ou qui vont voir des psys, c'est qu'il explique que quand il y a eu refoulement, même s'il y a satisfaction, eh bien, cette satisfaction ne résout pas la tension qui existe. Et même si l'objet convoité est possédé, par exemple, il n'empêche que les choses ne sont absolument pas réglées parce qu'il y a eu un refoulement préalable et qu'ensuite on peut se satisfaire autant de fois qu'on le veut. Étant donné que ça a été refoulé et que c'est hors d'atteinte du moi et de la conscience, on ne peut, le caractère pathologique de la frustration continue, si vous voulez. Et que c'est pas parce qu'on se satisfait qu'il y a guérison. Ça, c'est très important, parce que c'est d'ailleurs en lisant ça que je me dis, ben oui, c'est vrai. Dans la psychanalyse, c'est pareil. Tant que, si vous voulez, ce qui a été refoulé n'est pas apparu à la conscience, d'une façon ou d'une autre, parfois on l'aperçoit ou pas, parfois on l'aperçoit même pas dans la psychanalyse, le problème n'est pas résolu. C'est pas parce que vous vous permettez de faire ce que vous étiez interdit que ça va résoudre les choses. Absolument pas. Mais ça, c'est pour cette raison précise. C'est parce que le refoulement n'a pas été levé. Donc ça continue à agir souterrainement comme s'il n'y avait pas de satisfaction jamais. Donc la satisfaction s'épuise, on continue à essayer de se satisfaire indéfiniment et rien n'est résolu. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été refoulé et qui n'est pas réapparu. Donc ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas disparition de l'angoisse parce que l'angoisse n'est pas entièrement retransformable en libido. Une fois que l'angoisse, d'après lui, dans sa première théorie, hein, parce qu'après ça change, une fois que l'angoisse est apparue parce que la libido n'est pas satisfaite, c'est pas parce qu'il va y avoir de satisfaction que que l'angoisse va se retransformer en libido, qu'il y ait en se satisfaisant, etc. C'est fini. Il faut qu'il y ait mise à jour de ce qui a été refoulé. Alors, dans une note, Freud indique dans cette psychanalyse de Hans que l'angoisse et le désir sont en général mêlés et que l'angoisse ne devient pathologique qu'à partir du moment où elle ne peut plus être résolue par l'obtention de l'objet convoité. Alors dans le cas la mère, la mère est toujours l'objet primordial hein, du désir pour le garçon et pour la fille. Dans les deux cas, hein, la mère est toujours l'objet primordial du désir, à mesure où c'est elle qui s'occupe de l'enfant, que ce soit un garçon ou une fille. Et ça, c'est absolument évident. De toute façon, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit tellement... D'ailleurs, en littérature, on s'en aperçoit, dans les auteurs du XVIIe siècle ont déjà dit depuis longtemps, avant Freud, en particulier les auteurs espagnols. Alors, dans le cas de Hans, l'objet est interdit, évidemment. Dans le cas de la mère, l'objet est interdit, ce qui entraîne une très forte agressivité contre le père, qui, classiquement, ça tout le monde connaît, entraîne une angoisse de castration. Bon. L'analyse du petit garçon met à jour la très forte ambivalence concernant ce père qui est détesté et en même temps aimé. Alors ça, l'ambivalence, c'est un phénomène totalement courant chez tout le monde. Il n'y a personne qui échappe à l'ambivalence, absolument personne, hein, névrosé, psychotique, enfin tout ce que vous voulez, les soi-disant normaux. Donc l'objet est à la fois aimé et haï, en particulier le père, et ça se voit très nettement. D'ailleurs, moi je ne comprends pas, il suffit de voir les enfants, hein, avec des yeux un peu objectifs pour voir que tout ça est vrai. Les parents ne veulent pas voir, maintenant un peu moins, mais à l'époque on ne voulait pas voir, hein. Et même aujourd'hui, honnêtement. Là, par exemple, c'est très net, parce qu'à un moment, il donne des coups de tête à son père, il se précipite sur lui, donne un grand coup avec la tête, et puis juste après, il l'embrasse. Mais c'est les deux à la suite. Hein. Alors, évidemment, un adulte ne fera jamais ça. Mais vous avez bien vu dans votre travail, partout, que bon, les sentiments ambivalents, plus vous aimez les gens, plus vous les détestez. Hein, c'est absolument évident. Il y a malheureusement. Hein. Alors, dans les cures psychanalytiques, on essaye de réduire cette ambivalence qui est évidemment fortement gênante. Hein. Les gens qui vous sont complètement indifférents, vous les détestez pas et vous les aimez pas. C'est normal. On s'en fout, c'est tout simplement. Même si c'est des salauds, des ordures, ils vous font du mal. Mais si vous sont indifférents, qu'est-ce que vous voulez que ça vous fasse? Ça m'est indifférent, personnellement. Hein. Les gens auxquels on tient, que l'on va détester, pas les autres. L'autre s'en fiche complètement. Hein. Alors, ceux qu'on déteste et qui sont des représentants des parents, évidemment, le directeur, etc., tous ceux qui sont en situation parentale, j'ai l'impression que vous avez des expériences là qui vous remontent, là, ce rire libérateur exprime une décharge pulsionnelle. Alors, avec les sentiments, donc, alors, évidemment, il le met en relation avec les sentiments de type homosexuel, qui sont mis à jour, parce que vous savez que contrairement à ce qu'on raconte et qui est totalement faux chez Freud, le complexe d'Œdipe est double. Hein. Vous avez d'un côté le petit garçon, alors il prend l'exemple du garçon, puis après il prend l'exemple de la fille en disant, oulala, la fille c'est encore plus compliqué. Donc je commence par le garçon, d'abord parce que c'est un garçon, il comprend mieux, donc c'est logique qu'il parte de là, puis c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est beaucoup plus simple parce que le petit garçon ne change pas d'objet normalement. Alors que la petite fille doit passer de la mère au père, enfin au substitut du père, et que c'est pas du tout simple. Hein. Donc c'est encore plus compliqué que pour le garçon. Enfin, c'est compliqué en fait dans les deux cas. Mais là, si vous voulez, il explique que le complexe d'Œdipe, je vous fais un petit rappel au cas où vous ne sauriez pas, il est double. D'une part, le petit garçon veut coucher avec sa maman, bien évidemment, sans savoir très bien ce qu'il va faire avec, bien évidemment. Et de l'autre côté, il veut tuer son père. Pour lui, tuer ne veut pas dire tuer, bien évidemment, non plus, parce que la conception de mort arrive assez tardivement chez les enfants. Hein, quand ils disent tuer ou mourir, ça n'a pas le même sens que pour un adulte tant qu'ils n'ont pas la conscience d'un temps irréversible. Et ça n'arrive qu'à la fin du complexe, qu'avec l'Œdipe, si vous voulez, quand l'enfant a 2-3 ans, mourir, ça n'a pas le sens pour un adulte. C'est quelqu'un qui est parti et qui ne revient pas très souvent, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Et en même temps, chez Freud, hein, la représentation de la mort est impossible dans l'inconscient. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de temps dans l'inconscient, puisque ça se rapporte à une période très infantile, et il n'y a pas non plus de mort. Et c'est pour ça que c'est remplacé par la castration, que l'angoisse de mort est un analogone qui est l'angoisse de castration. Parce que ça, c'est représentable, la castration, puisque la mort n'est pas représentable, bien évidemment. Et pour nous, c'est pas représentable non plus. On sait vaguement ce que c'est quand même. Tandis que l'enfant, lui, ne va pas se le représenter. Et ça va être évidemment très très compliqué. Alors, il y a d'une part le complexe d'Œdipe tel que tout le monde le connaît. Mais parallèlement, le petit garçon est amoureux de son père. Et il a des sentiments agressifs envers la mère. Et c'est parallèle. Parce que pour Freud, et ça je ne sais pas pourquoi on le refuse, mais c'est dit partout dans Freud, il y a une ambivalence sexuelle chez tout être humain. Ça ne veut pas dire que tout le monde est homosexuel, c'est pas ça. Mais ça veut dire que psychiquement, il y a une bisexualité psychique. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bisexualité ni biologique, sauf dans les cas d'hermaphroditisme, dans les cas vraiment très bizarres, et un peu rares. Et de l'autre côté, une bisexualité qui peut se réaliser sur le plan sexuel vraiment, mais au niveau psychique, il y a pour Freud bisexualité chez tous les êtres humains. Parce que justement, il y a un attachement à la fois au père et à la mère en même temps. Et donc c'est contradictoire, c'est compliqué et contradictoire, puisque d'un côté il aime sa mère, veut que son père, et de l'autre côté il aime son père et quasiment veut que sa mère. Il veut s'en débarrasser en tout cas, pour posséder le père. Donc y avoir une attitude passive vis-à-vis du père. D'ailleurs, Freud dit des choses extrêmement déroutantes pour tout le monde, y compris pour les psychanalystes. À la fin de sa vie, il écrit que, ça je vous le dis parce que je ne sais pas si vous savez, c'est qu'à la fin il écrit analyse finie, analyse infinie. Et il dit, alors ça choque toutes les féministes, il dit, on est très optimiste quand on pense qu'on peut arriver à la fin d'une cure de psychanalyse. C'est très très rare. On n'y arriverait que quand la femme aurait reconnu son envie de pénis. Alors là, hurlement chez les féministes, mais il ne rapporte pas la phrase suivante qui est 10 fois pire. Et chez l'homme, l'acceptation de sa position féminine passive vis-à-vis d'un autre homme. Alors là, les gens, ils ne rapportent pas cette deuxième moitié de phrase. Mais il y a les deux, c'est la même phrase. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire forcément d'avoir des relations homosexuelles et d'être passif, parce que oui, c'est pas ça que ça veut dire, bien évidemment. C'est sur le plan psychique. Hein. C'est l'angoisse de castration dont il va être question ici, qui est tellement forte chez l'homme que la femme ne peut pas ressentir, puisque les femmes sont quand même pas complètement idiotes, elles savent très bien, même si elles ont une envie. C'est pour ça que l'envie de pénis remplace l'angoisse de castration, et que le complexe d'Œdipe s'appelle toujours complexe d'Œdipe, pour l'homme et pour la femme, il n'y a pas de complexe d'Electre, par exemple. Ça n'existe pas. Freud refuse absolument. C'est la même chose, mais ça ne peut pas être la même chose, parce qu'une femme et un homme, ce n'est pas fabriqué de la même façon, et que donc les petites filles et les petits garçons ne se structurent pas exactement de la même façon. Donc c'est tout. Hein. Mais il appelle ça toujours le complexe d'Œdipe, mais dans un cas, il y a désir de pénis, alors il faut être absolument aveugle et sourd pour ne pas voir que ça existe chez les petits-enfants. Je vais raconter une anecdote, hein, parce que je sais très bien que chez les féministes, ça fait un scandale, en Amérique en particulier. Je me disais, un petit garçon venait de naître, exactement comme ça, une petite fille que je voyais au Portugal, à Lisbonne, des gens très gentils, le père ingénieur, la maman professeur, bien élevé, les petits-enfants modèles et tout et tout. Le premier jour que j'arrive, du genre 5 jours après la naissance de l'enfant, cette petite fille modèle, blonde, avec des petits rubans et tout, se jette sur moi, sur mon pantalon, sur ma braguette, essaye de l'ouvrir, et elle me dit, je veux voir, je veux voir, je veux voir, elle le répète 15 fois de suite. Alors la mère, heureusement, très bien, réagit très bien. Moi, évidemment, l'invité, je ne sens pas très bien quoi faire. Mais la petite fille avait du genre 4 ans, un truc comme ça, qui petit garçon de a dit, écoute, alors là, c'était pas très flatteur pour moi, parce que la mère, sachant pas quoi dire, elle dit, écoute, va voir celui de ton petit frère, c'est pareil. Elle dit, ah bon? C'était évidemment, c'était une solution. Bon, elle s'est calmée, elle est allée voir son petit frère qu'on était en train de changer. C'est évidemment, elle voulait savoir si tous les petits garçons avaient des zizi et des pénis, et si tous les hommes en avaient, si les femmes en avaient, en avaient pas, et si elles en avaient pas, c'est qu'on leur avait coupé, enfin, taratata. C'est l'histoire, il y avait toutes les théories sexuelles infantiles qui s'échafaudent complètement délirantes parce qu'ils connaissent pas la vraie sexualité. Ça vient uniquement de là. C'est tout, hein. Ils sont pas assez mûrs pour comprendre, d'ailleurs, même si vous leur expliquez, ils comprennent pas. Hein, vous pouvez leur expliquer, ils pensent, très souvent, ils pensent que vous racontez des histoires. Absolument, c'est comme si vous leur racontiez que les enfants arrivent, que les cigognes ou que les garçons naissent dans les choux, les filles dans les roses, c'est exactement du même ordre. Ils vous croient autant, très souvent, que quand on voit comme ça. Alors, là justement, le petit Hans, il est en plein là-dedans. Là, sa petite sœur vient de naître, il est d'une jalousie folle, puisque évidemment sa mère s'occupait de lui, puis d'un coup, il est obligé de s'occuper plus de sa petite sœur que de lui, il est extrêmement jaloux. Et en même temps, il a une très grande ambivalence, donc il concerne non seulement le père, qu'il veut battre parce que c'est un rival, mais également la mère qu'il veut battre. Alors il a des sentiments, dit Freud, sadiques envers la mère, parce que pour lui, battre signifie, c'est la représentation, si vous voulez, du rapport sexuel, en fait. On bat sa mère, il y a un texte de Freud très célèbre, on bat un enfant. Hein. Et ça voudrait dire, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de fous qui étranglent des petites filles, etc., parce que pour eux, ils en sont encore restés là, hein, ça s'est fixé, c'est-à-dire ils confondent complètement la sexualité avec la violence et avec le déchaînement des instincts sadiques. Et sinon, ce serait incompréhensible. Bien évidemment, il y a une confusion totale chez les psychotiques, les pervers, qui est extrêmement grave. Donc là, il veut battre sa mère, mais explicitement, il le dit, hein, il dit qu'il veut la battre, la frapper, la fouetter, et on se rend... Et puis tout d'un coup, on se rend compte que Hans a très peur d'un cheval, des chevaux, parce qu'il a vu un cheval tomber. Et qu'il a désiré immédiatement la même chose à son père, bien évidemment, pour pouvoir dormir avec sa mère, sans évidemment imaginer ce qui se passe chez un adulte. C'est forcé simplement dormir avec sa mère, sans plus. Hein. C'est très flou, forcément. Et tout ceci... entre évidemment dans le cadre du complexe d'Œdipe, dont je vais rappeler les grandes lignes doubles là à l'instant, et se lie aux théories sexuelles infantiles concernant l'origine des enfants, qui est ce qui torture les enfants pendant toute leur enfance. Freud dit que la raison pour laquelle les enfants se demandent toujours pourquoi, c'est que la seule chose qui les intéresserait, mais qu'on ne leur dit pas, et que même si on leur dit, je crois qu'on leur raconte des salades de toute façon, c'est de savoir d'où viennent les enfants et qu'est-ce que fait le père avec la mère. Qu'est-ce que fabrique le père par rapport à la mère, pourquoi il est là, et pourquoi les enfants ne comprennent évidemment pas quand ils sont petits. Et si vous voulez, cette unique question qui les taraude entraîne, est à l'origine pour Freud de toute la curiosité scientifique. Je ne suis pas sûr qu'il ait tort. Bon, alors, donc c'est l'origine des enfants et la différence des sexes, qui est évidemment un mystère. L'enfant, le petit garçon, postule toujours que non seulement tous les hommes ont comme lui un pénis, mais que tous les êtres humains ont un pénis, parce qu'il fait la différence entre être humain, animé et inanimé. Ceux qui sont animés ont un pénis, ceux qui n'en ont pas sont des objets, des choses. Et au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui n'en ont pas. Quand même. Et puis, la dernière chose qui résiste, c'est la mère. Quand même, c'est pas possible que la mère n'en ait pas. Parce que si vous voulez, il investit ce petit membre, comme dit Freud, tellement d'une intensité narcissique tellement forte chez l'homme, c'est absolument fondamental, évidemment. J'aimerais bien qu'on me prouve le contraire, que c'est pour ça que chez la femme c'est le bonheur possible et que c'est le corps qui dans son ensemble investi de réfléchir une seconde, il réfléchissait une seconde, c'est quand même la raison pour laquelle la femme se part, se maquille, la raison c'est qu'elle n'a pas de pénis, hein, bien évidemment, et que donc il faut remplacer par quelque chose qui est de l'ordre de la perversion. Mais naturel, tout à fait naturel, des substituts du pénis. On s'en rend compte chez les pervers. Tout simplement, hein, ce qui ne peut pas y avoir cette angoisse de castration, de refus de savoir que la mère possède un pénis, c'est inimaginable pour le petit garçon, et chez les pervers, ça reste même à l'âge adulte. Et le fait que ce soit impossible à même concevoir, c'est tellement angoissant qu'il faut absolument que ça soit remplacé par quelque chose chez la femme. Alors c'est n'importe quoi. Des talons aiguilles, c'est très souvent des talons aiguilles, comme vous savez, n'importe quoi. Alors c'est normal, c'est tout être normalement constitué, si vous voulez, ces aspects pervers, mais chez les pervers, il n'y a pas de possibilité de satisfaction autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jouissance si on n'est pas dans un scénario extrêmement précis où justement il y a quelque chose qui remplace le pénis absent et auquel il ne veut pas renoncer. Et c'est impossible de renoncer à ça. Donc, ceux qui n'y arrivent pas, bah, c'est des pervers, c'est tout, c'est pas grave, hein. On n'en meurt pas. Sauf quand c'est en plus psychotique, alors là c'est grave. Bon, alors, si vous voulez, Hans a évidemment deviné, comme tous les enfants, que l'histoire de la cigogne, c'était des histoires complètement idiotes, il n'en croit pas un mot, et Freud montre très très subtilement qu'il en rajoute 3 tonnes à propos des théories sexuelles de l'origine des enfants qu'on lui a racontées. Il raconte des histoires aberrantes et en fait il se paye la tête de son père et de sa mère, qui s'en rendent à peine compte d'ailleurs, je crois l'enfant est bien naïf, pas du tout, l'enfant se fiche de ses parents. Vous imaginez que je crois vos histoires de cigogne, alors moi je vous en racontais des bien bonnes, mais il raconte des énormités que les parents gobent évidemment en pensant que l'enfant croit vraiment à ça, ce qui est absolument faux, parce qu'il sait très bien que les cigognes, ça n'existe pas. Et qu'on lui a raconté des histoires. Et c'est par vengeance, évidemment, qu'il raconte des absurdités, en se moquant en particulier de son père. Alors, sa théorie est évidemment, comme la première théorie des enfants, presque toujours, et l'origine anale des enfants, hein, presque toujours. Il y a toujours des théories qui apparaissent dans tous les mythes. L'enfant, la mère a avalé, je ne sais trop quoi, et puis ensuite elle recrache l'enfant de l'autre côté, etc. Et alors cette théorie anale, qui est une des premières théories, après il y en a d'autres, hein, ceux qui sont plus évolués, l'enfant naît par le nombril, mais il ne faut surtout pas qu'il naisse par où il naît, parce que le problème c'est d'éviter l'angoisse de castration. Une bonne façon de l'éviter, c'est évidemment qu'il n'y a pas de trou là, c'est pas troué, c'est plein, il y a un pénis toujours, c'est pour ça que les enfants ils naissent toujours par ailleurs que par là où ils naissent, et ça dure très très longtemps. Il y a des adultes à l'hôpital, moi personnellement, j'ai eu cette théorie que je croyais très arriérée, que les enfants naissaient par le nombril, mais ça durait longtemps. Et donc, je croyais ça très arrivé, mais il me semble que c'est déjà très élaboré. La théorie du nombril est déjà une théorie beaucoup plus élaborée que la théorie anale. Et alors, on voit des adultes qui croient encore, à 20 ans en plus, hein, que les enfants naissent d'une façon quand même un peu bizarre. Alors, l'analyse... Je sais plus où je suis parce que j'ai pas lu mon texte, là. Il faut lier à cette théorie infantile anale qui est très fréquente. Moi, je me souviens, je la refusais, j'ai un souvenir, je la refusais. Je jouais, tout le monde jouait dans la rue, dans mon quartier, je suis en 12e, pas très loin. C'est pas comme aujourd'hui, tout le monde jouait dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de voitures, toute classe confondue d'ailleurs. Et donc, on jouait dans la rue, tous les enfants étaient dans la rue. Là, je me suis mis en 46, après-guerre, tout le monde était dans la rue. Et je me souviens très bien, il y a un moment, il y en a un qui a dit à quelqu'un d'autre, « Écoute, pour qui tu te prends ? Après tout, ta mère t'a chié comme tout le monde. » Alors moi, j'entends ça, je dis, quelle bande de débiles quand même. Ils ne savent pas que les enfants sont naissent par le nombril. Parce qu'à quoi ils servaient le nombril sinon à ça. Bon, alors, mais je vous assure que c'est vrai que si vous entendez les enfants, maintenant on écoute un peu mieux, c'est absolument évident. Donc, il raconte des absurdités, et en fait, ce qui se lie, tout ça est lié, vous allez voir, c'est extrêmement complexe. Le cheval, par qui il a peur d'être mordu, est évidemment un représentant du père. On va voir pourquoi. Et ensuite, il pense aussi que Il n'a peur que d'une seule sorte de chevaux, les très gros et très forts, mais en particulier ceux qui sont juste en face de chez lui. En face de chez lui, il y a la douane, et il y a des voitures à cheval qui vont à la douane et qui ressortent. Et il a très très peur des chevaux de trait lourdement chargés, dont un, évidemment, est tombé. Et chez Freud, alors c'est là on voit l'incroyable subtilité de Freud, hein, parce que une représentation n'en empêche pas une autre. Hein. Ça c'est très particulier, l'inconscient n'admet pas n'a pas le principe de non-contradiction. L'inconscient A n'est pas forcément A. A peut être B, si vous voulez. C'est pas une logique telle que la logique, pratiquement la logique aristotélicienne, si A est A, A est A et pas B. Eh ben non, c'est un principe de non-contradiction dans la logique aristotélicienne, qui est la logique de tout le monde, si vous voulez. Et par contre, dans l'inconscient, une chose et son contraire ne s'excluent pas. De même qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de contradiction. Ce qui rend les choses compliquées, bien évidemment. Et pourquoi ? Ben c'est simplement parce que ça se réfère à un âge où l'enfant est tout petit, il n'a pas ces notions, c'est tout simplement ça, c'est aussi bête que ça. Tout a été refoulé à cette période-là, où il n'a pas la maturité intellectuelle nécessaire pour connaître toutes ces notions, bien évidemment. Donc, il a très très peur des chevaux lourdement chargés, et on voit dans ce qu'il dit par ailleurs, qu'il assimile la chute du cheval, c'est extrêmement bizarre, si vous voulez, pour nous, hein, même aujourd'hui, très bizarre, il assimile la chute des fesses, faeces en latin, alors les médecins disent toujours les fesses, F-E, accent grave, c'est ça, c'est-à-dire le caca, pour dire les choses clairement, la chute des excréments, si vous voulez, est assimilée à celle de l'enfant lors de la naissance, puisque c'est une théorie anale de la naissance, et à celle du cheval, au cheval qu'il a vu tomber. Il y a tout un tas de détails que je vous passe, qui sont très 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 subtils. Freud montre... alors, en fait, il a peur que sa mère soit... S'il a peur des voitures très lourdement chargées, c'est parce qu'il a peur que sa mère soit à nouveau pleine comme les voitures. C'est-à-dire soit encore enceinte, ce qui serait une catastrophe épouvantable, parce qu'il a déjà une petite sœur. Alors, s'il en a une deuxième... Il pense que ça sera la catastrophe, qu'on ne s'occupera plus du tout de lui, et donc il a très très peur des chevaux chargés, mais en réalité c'est un déplacement par rapport à sa mère enceinte, parce que bien évidemment il a bien découvert que les mères ont des enfants parce qu'elles sont enceintes, et pas parce que la cigogne apporte des enfants, parce que tous les enfants s'en aperçoivent. Même s'ils ont effacé ce souvenir, chacun se débrouille comme il peut, moi je me souviens très bien, je n'ai aucun souvenir de ma mère enceinte, alors aucun. C'est-à-dire c'est une parenthèse dans mon existence, je ne vois pas ma mère enceinte. Par contre, je la vois sortir de l'hôpital le jour de la clinique, le jour de l'accouchement. J'ai absolument, je vois mon frère, cette espèce de chose lamentable, et j'ai très bien le souvenir, je regarde un peu d'une façon un peu méprisante, et bon, évidemment, c'est une intrus, alors il n'y a pas forcément de l'hostilité ouverte vis-à-vis des petits-enfants par rapport au départ. On est déjà plus subtil, même quand on est petit, hein, on est capable déjà d'avoir des sentiments complexes à 4-5 ans. Et donc, on a des enfants qui prennent des fers à repasser, qui sont tout à fait normaux après, hein, qui essayent de tuer leur petite sœur, leur petit frère. Moi, je connais le cas d'une jeune femme qui m'a dit quand elle était petite, elle a carrément pris le fer à repasser, allumé, crac, elle a failli le mettre sur sa petite sœur qui avait une semaine. Quoi. C'est quand même des choses. Ce n'est pas spécialement monstrueux, c'est un petit enfant. Alors, il a quand même bien compris le petit Hans, et il désire éviter tout contact entre ses parents pour éviter la catastrophe, parce qu'il pense que sa mère ne l'aimera plus suffisamment et que son attention ne sera pas suffisante vis-à-vis de lui. Il a peur que ça diminue. Alors, toutes ces craintes sont exprimées, enfin expliquent l'angoisse. Mais comment expliquer le surgissement de l'angoisse puisqu'il y a refoulement ? Selon pourquoi il y a refoulement, puisque de toute façon, pourquoi il y a angoisse puisque c'est refoulé ? Extrêmement mystérieux. Alors, dans la première théorie freudienne, mais même il y a des choses qui vont rester, il faut bien penser que pour Freud, ça c'est fondamental, beaucoup de psychanalystes n'en tiennent pas compte, parce qu'ils ne disent pas les choses simplement, il y a une théorie freudienne, on ne peut refouler que des représentations. On ne peut pas refouler des affects, c'est-à-dire l'angoisse, c'est un affect, on ne peut pas le refouler. On refoule des représentations en refusant leur accès à la conscience. Et ce qui va être refoulé dans le cas du petit Hans, c'est simplement l'idée de... Bon, on va voir après. Mais si vous voulez, on ne peut pas refouler autre chose que les représentations. Alors, pour lui, où il y a... Alors, qu'est-ce qu'elle devient, l'angoisse ? L'angoisse est déliée, normalement, l'angoisse est liée à une représentation. Ici, c'est la représentation du cheval qui mord. Et ce cheval qui mord, en fait, correspond au père qui risque de le castrer. En réalité, c'est pas du tout le père dont il a peur, il n'a pas du tout peur que son père le castre, c'est qu'en réalité, c'est lui qui veut tuer son père. C'est différent. Et donc, ça s'inverse. Et comme lui veut tuer son père, il pense que son père veut en faire la même chose avec lui. Comme il n'a pas une représentation de la mort, donc ça se transforme en castration. Et donc, en angoisse de castration, qui est quelque chose d'omniprésent chez les hommes, bien évidemment. Et, alors, si vous voulez, normalement, quand vous avez une représentation angoissante, ou un affect est lié à une représentation. Vous vous représentez, moi je sais pas, on va dire un truc simpliste, vraiment simpliste, la guerre, une bombe qui éclate, ben, évidemment c'est effrayant, donc il y a une frayeur qui est liée à un accident, une voiture qui risque de vous écraser, etc. Ben, c'est logique, si vous pensez que vous risquez de vous faire écraser par une voiture, vous avez lié l'affect d'angoisse, de crainte, de frayeur, enfin, etc., etc. Quand c'est refoulé, il y a la représentation qui est refoulée, et l'affect, il se balade tout seul, et alors il a des destinées très variables. Alors, soit il se décharge dans les névroses d'angoisse comme ça, il y a de l'angoisse, toute crue en quelque sorte, hein. Il y a une angoisse intense qui n'est liée à rien, qui n'est pas expliquée. Soit, dans d'autres cas, il y a des formations de symptômes qui évitent le surgissement de l'angoisse. Et ici, dans le cas de la phobie, c'est pour ça que c'est un cas qui est privilégié, qui est très fréquent. Hein. La phobie existe pratiquement dans toutes les affections psychiques. Hein. Les obsessionnels peuvent avoir des phobies, les hystériques ont des phobies, on dit les hystérophobiques, les structures hystériques ont des phobies. Il y a même des phobies chez des psychotiques, etc. C'est un phénomène extrêmement courant qui ne veut pas dire on a telle maladie parce qu'on a une phobie. Hein, parce qu'après, les gens, ils s'appellent tous de se diagnostiquer tout ça. Et, si vous avez des phobies, ça peut être n'importe quoi, je vous dis tout de suite. Hein. Alors, ça, c'est la peur du vide. Les phobies, c'est ça, la peur du vide, peur des animaux, des serpents, enfin de n'importe quoi. C'est en fait très astucieux, la phobie. Parce que moi, j'ai vu une phobie très spectaculaire, absolument incroyable. Alors, c'est l'agoraphobie, vous avez peur d'aller dans un lieu public, donc vous sortez plus dans la rue à ce moment-là, l'agoraphobie, bien évidemment. C'est très... ça entraîne des inhibitions très importantes, bien évidemment. Alors, oui, une très spectaculaire, c'était quelqu'un qui avait une phobie des serpents. Alors, comme évidemment à Paris, il n'y a pas beaucoup de serpents, ça va, c'est bien comme phobie. C'est mieux que la phobie des ascenseurs ou la phobie de la rue. Là, vous êtes complètement coincé. Mais quelqu'un qui a une phobie des serpents, normalement, il suffit qu'il ne voit pas de serpents. Et à Paris, il ne va pas voir de serpents. Là, l'opéra, c'est au milieu du truc, il y avait des gens à droite et à gauche. La flûte enchantée, il y a un serpent au début, mais qui n'est pas un vrai serpent. Le type est devenu blanc, rouge, il s'est mis à trembler. Il a fallu qu'il sorte de la représentation. Même la représentation d'un serpent très stylisé a entraîné une crise d'angoisse phobique absolument. Les gens qui étaient à côté n'en revenaient pas. Le type était comme une panique atroce, alors que c'était même pas un vrai serpent. Si encore c'était un vrai. Mais non, c'était une représentation de serpent vraiment très stylisée à l'opéra. Donc vous voyez jusqu'où ça va les phobies. Mais ça c'est une phobie pas mal, c'est pas mal comme phobie, parce que à Paris, bon, vraiment vouloir pour rencontrer des serpents dans la rue. Donc, alors qu'est-ce qui se passe dans la phobie? Qui se rapproche beaucoup, évidemment, d'après Freud, de la névrose d'angoisse. L'angoisse est complètement séparée de la représentation qui, elle, est refoulée, et la représentation se transforme et se fixe sur un substitut. Au lieu, si vous voulez, dans ce cas, d'avoir peur du père qui risque de le mordre, enfin, c'est-à-dire de le castrer, de le tuer, c'est transformé par un cheval qui risque de le mordre. Donc il faut, pour que ça apparaisse, qu'un cheval apparaisse, assez effrayant, il faut qu'il soit gros, bon, il y a tout un tas de conditions. Donc il suffit qu'il n'aille pas dans la rue et au bout d'un moment il ne sort plus. Il refuse de sortir parce qu'il a peur d'être en contact avec des chevaux. Donc c'est pour ça que ça apparaît aux parents de façon qui est plus évidente. Un petit garçon joyeux, qui joue facilement, qui est très sociable, etc. Tout d'un coup, ce calfeutre refuse de sortir. Alors Freud explique très bien que il y a une sorte de déplacement du père au cheval. Et par exemple, dans l'hystérie de conversion, c'est pas exactement la même chose, mais le symptôme hystérique empêche totalement, comme je vous le disais tout à l'heure, l'apparition de l'angoisse, puisqu'il y a fixation sur le symptôme lui-même, la paralysie de la jambe, par exemple, où là, on voit plus bien, il y a pas des trucs comme ça. De même, dans l'hystérie d'angoisse, se transforme d'après Freud, et normalement, et presque tous les enfants ont des phobies, comme vous le savez, le plus courant, c'est la phobie du noir. Ils ne sont pas dans l'obscurité, dans une petite lumière, taratata. Donc, si vous voulez, ça, Freud dit que c'est tout à fait naturel, c'est une phase, et puis ensuite ça passe, on n'en parle plus. Tous les enfants ont des phobies, ils ont peur des gros chiens, enfin, vous voyez, ce genre de crainte. Seulement, c'est naturel. Hein. Pour Freud, c'est des stades absolument naturels. Au début, ça commence par des névroses d'angoisse, c'est simplement une angoisse indéterminée. Et logique qu'après, on élabore un petit peu, et l'objet phobique se détermine, et ça devient quelque chose de très précis, qui évite d'avoir de l'angoisse tout le temps, bien évidemment. C'est assez pratique, finalement, c'est assez économique. C'est des mécanismes qu'on appelle maintenant, que moi j'ai fait des études de psychopathologie, de défense. Il s'agit de défense du moi contre des dangers intérieurs, extérieurs, etc. Et intérieurs surtout, parce que c'est le pire, c'est les dangers intérieurs. On va le voir tout à l'heure, un danger extérieur, vous pouvez fuir. Un danger intérieur, vous allez fuir, vous ne pouvez pas. Donc le problème, c'est comment faire quand vous avez une menace intérieure, psychique. C'est le pire, hein. Comment y échapper? Et alors il faut bien faire quelque chose. Donc on construit des choses assez complexes, comme par exemple c'est des phobies où il y a un objet phobique. Alors vous savez que les phobies, très souvent, par exemple la phobie des transports, elle disparaît s'il y a un objet rassurant, contraphobique. Il faut par exemple, j'ai une collègue, très très bien d'ailleurs, en mobile, il fallait absolument qu'elle soit accompagnée dans le métro, partout, pour pas être angoissée, sinon elle ne peut pas prendre le métro, ne peut pas prendre le train, elle ne peut prendre aucun moyen de transport. Ok, c'est pratique, comme ça elle a toujours quelqu'un qui l'accompagne. Et ça, c'est le bénéfice secondaire des névroses. C'est-à-dire que d'un côté, c'est inhibant, c'est inquiétant, etc., etc. Mais de l'autre côté, il y a des inhibitions très très fortes, mais il y a des structures défensives qui sont mises en place, qui sont très efficaces, mais en même temps, il y a des bénéfices secondaires, évidemment, hein, parce que l'enfant qui ne peut pas sortir, il est toujours avec sa mère, entre parenthèses. Donc, il a ce qu'il cherche, en réalité. Et c'est presque toujours comme ça. Et c'est pour ça que les gens refusent d'abandonner leurs symptômes névrotiques. Et c'est tellement dur dans les psychanalyses de les faire abandonner ces symptômes. Parce que, si vous voulez, comme il y a un bénéfice par ailleurs, il est bien évident que quand on a un bénéfice et d'une telle nature, vous pensez bien qu'on ne va pas, une femme hystérique, comme toutes les femmes hystérophobiques, elle est bien courtisée, c'est pas normal que les hommes s'occupent d'elle, etc. Mais là, on est obligé de les accompagner, surtout les hommes d'ailleurs, parce que c'est beaucoup plus rassurant. Donc si vous voulez, tu m'accompagnes, tu me rentres par chez moi, bien, tous les hommes sont obligés de faire des détours, pas possible pour l'accompagner. Alors elle est toujours accompagnée, c'est absolument idéal. Évidemment, elle a des crises d'angoisse atroces si jamais. Mais en règle générale, elle se débrouille très bien, cette dame, qui est tout à fait charmante et très intelligente. C'est une femme absolument charmante et très, très intelligente. L'intelligence n'a rien à voir avec la maladie psychique. Alors là, absolument rien. C'est complètement ces deux choses qui n'ont rien à voir. Alors, ce que je vous disais, c'est que souvent, ça n'a pas de suite tout ça. C'est transitoire, toutes ces phobies n'ont pas de suite à l'âge adulte. En ce qui concerne l'origine de l'angoisse, Freud suppose qu'il y a au départ une angoisse d'origine somatique qui se serait mise au service d'un désir, en particulier dans les rêves, c'est des rêves qui sont apparus à ce moment-là, des désirs intensément refoulés qui sont réalisés à ce moment-là. Alors Freud, à cette époque-là, s'en tient à la théorie de la transmutation de l'excitation sexuelle en angoisse, rejetant l'idée que ce seraient des sentiments agressifs contre le père qui seraient à l'origine de l'angoisse. Contre les parents en général, il dit bien évidemment, la névrose n'est pas causée par l'événement fortuit de la chute du cheval. Freud est quand même un type intelligent. Il ne va pas dire, vous avez un cheval qui tombe, donc les enfants ont une angoisse parce que le cheval est tombé. Foutre les enfants que le cheval soit tombé, c'est bien. Si lui n'a pas été menacé, il n'y a aucune raison qu'il ait été traumatisé par un cheval qui tombe. Ils ne sont pas bêtes à ce moment-là, les enfants. Et donc, par contre, le cheval a été élevé, dit Freud, surtout qu'ils sont assez sadiques, les enfants, vous avez remarqué, quand un cheval tombe, au contraire, ça leur fait plaisir. Le cheval a été élevé, dit Freud, à la dignité d'objet d'angoisse. Il appelle ça comme ça. Sans qu'il ait été traumatisé par la chute du cheval. Pour ça, pour être traumatisé, parce que ça va être la deuxième théorie, il faut vraiment que ce soit très violent. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, je ne croyais pas, quand j'ai fait l'expérience, des accidents. C'est typique, c'est l'accident. Une voiture qui m'est passée à 1 cm du bout de ma chaussure. Je vous assure que j'ai tremblé pendant exactement une demi-heure. J'ai pleuré pendant une demi-heure, mais c'était irrépressible, je ne pouvais pas m'empêcher. Et j'avais vu, après les accidents d'avion, tout ça, c'est toutes ces cellules qu'on met, c'est dû à ça. C'est des l'angoisse est tellement forte, enfin le choc traumatique est tellement fort, en général on ne s'y attend pas, que l'on a des réactions physiques extrêmement violentes, mais ça c'est différent, c'est des traumatismes qui ensuite n'ont pas de suite, un individu normal, hein, vous n'avez pas. Là, voir un cheval, on ne voit pas bien en quoi ça aurait été un traumatisme, un cheval tombé, bon, évidemment, on rigole plutôt. Alors, c'est parce que le cheval, en fait, avait déjà une très grande importance pour lui, parce qu'en vacances, il avait été associé à la crainte du père. Explique Freud, il explique des choses très très complexes, il y a tout un tas de chaînes associatives très très compliquées qui expliquent pourquoi le cheval, c'est sur le cheval que s'est fixée l'angoisse qui est substituée au père. Le complexe, il y a donc eu un de ses amis était monté sur un cheval, il était amusé, etc. Puis il est tombé en jouant à cheval. Donc il s'est dit, bon, cheval, chute, tout ça c'est lié, mon père va bien tomber, être mort. Bon, il a associé tout ça avec l'agressivité contre le père et cet accident était chevaux. Alors, il dit, bon, là, il en met à jour une partie, mais pas tout, mais c'est déjà très très compliqué. Il y a un très complexe, dit-il, réseau associatif qui est mis en place concernant le cheval. C'est à la fois le cheval qui tire des voitures chargées pleines comme la mer, le cheval qui tombe, et qui comme un lumpf, on dit en allemand, hein, une crotte, qui est l'enfant qui tombe, etc., etc. Ce qui, dit-il, libéra la voie au retour du refoulé. Donc, il y a dit Freud, là je vous cite Freud, le matériel pathogène fut remodelé et transformé sur le complexe des chevaux, complexe signifiant des réseaux associatifs très très compliqués où tout est imbriqué avec des associations. Il a des théories qui sont liées aux associationnistes anglais du 19e siècle. Pas folle du tout. Hein. Sur le complexe des chevaux et les affects concomitants furent uniformément transformés en angoisse. C'est pour ça que l'angoisse est tellement importante en psychanalyse, c'est que très souvent, c'est en angoisse que se transforme un très très grand nombre d'affects. Même le plaisir, c'est l'inverse, et il y a de l'angoisse qui est ressentie, alors qu'en réalité, chez les hystériques, il y a une inversion du signe, elle souffre, et j'en éprouve une intense jouissance. Moi, j'ai une directrice, c'est comme ça, elle souffre vraiment tout le temps. Elle se fait apporter des verres d'aspirine en permanence, au bout d'une demi-heure, quand elle n'arrive plus à diriger les réunions. Alors, elle dit toujours que c'est un vrai martyr. Enfin, c'est vraiment, elle se sacrifie pour être. Son poste de direction, c'est un sacrifice aussi, et elle souffre en permanence. Bon, on ne peut pas imaginer que, comme ça dure depuis longtemps, on voit bien qu'elle en tire une intense jouissance et que c'est l'inversion de la jouissance, bien évidemment. Et ça, c'est très caractéristique de l'hystérie, mais ce n'est pas du tout caractéristique de la folie. Donc, si vous voulez, il fait là, en général, les affects concomitants au matériel pathogène lié au complexe de chevaux et sont transformés uniformément en angoisse. Freud fait alors une remarque extrêmement importante en expliquant que le refoulement, tant qu'il est efficace, empêchait le surgissement de l'enfant. Mais, de l'angoisse, pardon. Mais c'est aussi le surgissement de l'enfant, en fait, qui l'angoissait, bien évidemment, possible, d'une autre petite sœur, c'est libre, en fait. Mais en même temps, il inhibait, bien évidemment, puisqu'il ne pouvait plus sortir dans la rue, dans les crises les plus graves. Donc, il faut aussi dire que l'enfant, très très compliqué, il se comparait à un jeune cheval fou, qui courait, gambadait, etc. Pour lui, le cheval représente le mouvement, la joie de vivre, et le plaisir de se mouvoir, qui est un plaisir lié au sadisme anal, hein, en règle générale. Pourquoi? Parce que c'est à la même période que les enfants apprennent à marcher et maîtrisent leur sphincter. C'est pour ça qu'on parle de phase sadique anale. Il y a des raisons objectives, hein, ce ne sont pas du tout des raisons délirantes. Simplement, c'est à l'époque où les enfants apprennent à marcher et ils commencent à maîtriser quelque chose. La première chose qu'un enfant maîtrise, à partir normalement de l'âge de 27 mois, n'essayez pas de le faire avant, sinon ça provoque des catastrophes. On y arrive, mais c'est catastrophique. Normalement, c'est autour de 27 mois que la maîtrise du sphincter arrive, et si les parents ne sont pas trop angoissés, ça se passe plutôt bien. Mais à ce moment-là, l'enfant, pour la première fois, il maîtrise quelque chose. Lui, qui est un objet totalement passif, dont tout le monde s'occupe, la mère, etc., tout d'un coup, il a un pouvoir sur quelque chose qui est le contenu intestinal. Et on en éprouve souvent une intense jouissance qui continue à l'âge adulte, bien évidemment. Et là, si vous voulez, c'est en même temps que l'enfant commence, vous avez bien vu, les enfants qui commencent à marcher sont pris d'un délire de liberté, ils font plein de bêtises, on n'arrive plus à les tenir, ils nous voient partout, ils font n'importe quoi, parce qu'enfin ils sont libres, ils marchent seuls dans la rue souvent, enfin on n'est plus obligé de les transporter, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on appelle ça une phase sadique anale, tout ce qui est musculaire, la maîtrise des muscles se passe en même temps que la maîtrise des sphincters, ils apprennent à marcher à peu près en même temps, si vous voulez. Donc ce qui fait que c'est lié évidemment. Et donc il se compare à un jeune cheval, et le plaisir de se mouvoir, qui est énorme, est évidemment valorisé, et est lié à quelque chose qui est de l'ordre du sexuel, d'une façon floue, si vous voulez. Freud dit que c'est lié pour l'enfant, le plaisir de se mouvoir est lié au coït, même s'il n'a pas le temps. Bon, ça c'est compliqué, n'insistons pas. La phobie du cheval, donc, l'empêchait de sortir. Donc, ce que je disais tout à l'heure, j'avais un peu anticipé, ce qui lui permettait, donc, dit Freud, de rester avec sa mère, qui était donc son objet d'amour initial, évidemment. Et il est compréhensible, par contre, d'un autre côté, qu'il ne veuille pas renoncer à la phobie, non seulement parce qu'il reste avec sa mère, mais aussi parce que ça lui permettait de continuer à avoir des bons rapports avec son père. Dans la mesure où c'est pas le père qui est l'objet de l'agression, mais le cheval, le père est préservé, en quelque sorte. Il y a un déplacement, si vous voulez, sur le cheval et pas sur le père. Donc ça empêche, normalement, tant que le refoulement fonctionne, le surgissement de l'angoisse. Ça permet de rester collé à la mère et ça permet en plus de continuer à être en bon terme avec le père et de jouir encore de l'affection du père. Donc il y a des bénéfices secondaires qui sont tout à fait évidents. Alors, ce que Freud fait, ce qui va changer après, il refuse absolument d'admettre un instinct d'agression, en particulier contre le père, mais ça c'est contre un autre psychanalyste qui va se séparer de la psychanalyste, qui s'appelle Adler, qui a une théorie de la protestation mâle. Et Freud pense que bon, cet instinct n'existe pas, qu'Adler raconte n'importe quoi. Alors, tout ceci change en 1925-26, après la guerre, et l'élaboration de ce qu'on a appelé la seconde topique. Donc deuxième conception, révision de la première, pas entière, hein, il y a des petites transformations. Alors, dans ce livre-là, qui marche pas à pas, une façon de procéder qui est très particulière, si vous le lisez, vous verrez, c'est par strates, il avance, et puis après il modifie, il corrige petit à petit, c'est pas si simple que ça, il a un style clair par rapport à Lacan, évidemment c'est clair, hein. Mais c'est faussement clair, d'abord parce que c'est des traductions, et qu'en allemand c'est beaucoup plus clair qu'en français. En français on est obligé par la traduction, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, souvent l'allemand est beaucoup plus clair que le français pour Freud. Mais en même temps, donc il a, après la guerre, cette deuxième topique, le ça, le moi et le surmoi. Alors vous savez que le ça est originaire, au début l'enfant étant collé à la mère, hein, dans le ventre de sa mère, et quand il en sort, bon, une espèce de tout à peu près, pas tout à fait indistinct, mais qui se distingue progressivement. Et le sac et le réservoir des pulsions est originaire, c'est ce qui est le plus important, évidemment, d'être humain. Et ensuite, le moi se constitue progressivement, mais d'une façon très subtile, parce qu'il procède par métaphore, Freud, quand il décrit tout ça, parce que c'est très difficile à décrire. Ce qu'il voit, lui, c'est des phénomènes, et ensuite il essaye d'en rendre compte par des théorisations, parfois des schémas, très peu par rapport à Lacan, heureusement. Moi, dès que je vois des schémas, je ne comprends rien. Et un schéma lacanien, au bout d'un moment, c'est complètement perdu. Là, le moi est simplement, c'est comme la peau, si vous voulez. L'individu est contenu par la peau, hein, qui sépare de l'extérieur, qui englobe le corps, et matière, quoi. Et le moi, c'est la même chose par rapport au psychisme. C'est une espèce d'enveloppe extérieure. Et comme il est neurophysiologique de formation, il établit quand même, il dit que ça n'a rien à voir. C'est un schéma qui est purement expliqué par une sorte de métaphore ce que c'est. Mais en même temps, ça correspond quand même au cortex, qui est la partie la plus élaborée du cerveau qui se trouve à l'extérieur, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est pas à l'intérieur, le cortex il est à l'extérieur, hein. C'est la partie la plus récente à l'évolution de l'espèce, et en même temps c'est ce qui est à l'extérieur, et c'est là où il y a tous les centres, parce que le plus élaboré. J'espère que c'est pas bon, mais ça fait tic-tac là. Alors, dans donc ce moi, il est en surface, mais il est à la fois au contact de l'extérieur, et dans l'autre face, c'est une double face, il est au contact avec le réservoir des pulsions. Donc, et il y a une troisième instance qui s'appelle le surmoi, qui est tout simplement l'intériorisation par le biais de l'éducation, des éducateurs, des parents, de tous les interdits sociaux. Tous les interdits, dont le principal, évidemment, l'interdiction de l'inceste, qui est fondamentale, parce que c'est ça qui va séparer, qui va fonder la loi, etc., etc., et chez Lacan, ça va avoir une importance encore archi-fondamentale, mais chez Freud, ça l'est déjà. Donc, dans les inhibitions, le moi, qui n'est pas entièrement conscient, c'est quand même là que se situe la conscience, c'est dans le moi renonce à des activités, par exemple, Freud dit, écrire peut être interdit, parce que l'activité d'écrire est érotisée, d'où la crampe que l'on appelle la crampe de l'écrivain, qui ne peut plus écrire. Parce que si écrire, c'est le poète, évidemment, on ne peut plus écrire. Avec la mère, évidemment, donc c'est interdit, crac, on n'écrit plus. Marcher, c'est pareil, hein, parce qu'on frappe la terre, mère. Donc, si vous voulez, chez certaines personnes, il y a des représentations qui font, d'ailleurs dans l'Antiquité, c'est comme ça, marcher, plein de mythes où on se régénère en marchant sur la terre, en courant sur la terre, qui est la mère. Et donc, marcher, si c'est érotisé, peut être interdit, on ne marche plus. On a soit des paralysies, soit etc. Donc, ou des inhibitions à la marche, à la course, etc. Et tout ça parce que ça rentre en conflit avec le surmoi qui interdit, ça c'est la deuxième topique. Donc, le moi se voit évidemment plus ou moins gravement limité. C'est pour ça que beaucoup de gens, enfin, certaines personnes vont voir des psychanalystes non pas parce qu'ils sont angoissés, mais parce qu'ils se sentent limités. Même si c'est, alors c'est variable, ça peut être une limitation comme ça qui est énorme, mais des limitations beaucoup plus subtiles, et vous sentez que vous avez des possibilités, mais qu'elles ne sont pas entièrement réalisées, parce que vous avez des inhibitions qui font que vous ne maîtrisez pas à faire une chose que vous aimeriez faire, mais que vous ne pouvez pas faire, pour que tout le monde vous juge absolument normal. Hein, c'est évidemment mon cas. J'ai dit aux gens que je me sentais inhibé quand j'étais jeune, on regardait avec des yeux, enfin non, quand j'avais, on va toujours vers 35-40 ans, les hommes, on se fait un psychanalyse vers 35-40 ans. Et donc, ils ont vraiment compris que là, enfin, les plus intelligents, que là, c'est une solution quand même qu'on peut pas, qu'il vaut mieux passer par là. Mais simplement, on se donnait des inhibitions que je jugeais de type intellectuel. Évidemment, quelqu'un de normal, de ce type, est complètement fou. Il a fait normal sup, il est le premier de la grecque, il se sent limité intellectuellement, complètement malade. Et en fait, j'avais raison. Absolument raison. Je m'en suis rendu compte avec l'analyse, ça provoque vraiment des désinhibitions intellectuelles, enfin, autre chose, spectaculaire, hein, c'est tout d'un coup. Et c'est souvent en début d'analyse, c'est même pas, faut pas attendre 35 ans ou 25 ans quand je suis obsessionnel. Ça veut pas dire que l'analyse est terminée. Hein. Mais au moins, on a des inhibitions qui ont sauté, ce qui est déjà pas mal. Alors, si vous voulez. Le moi, dans les cas des inhibitions, est plus ou moins gravement limité, que ce soit dans les phobies, dans les névroses phobiques ou dans les névroses obsessionnelles, et son énergie est appauvrie. Cette plainte que les gens ont de toujours être fatigués, de ne pas pouvoir faire des tas de choses, parfois c'est réel, parfois, c'est pas tout à fait réel, c'est qu'ils luttent intérieurement pour maintenir refoulé ce qui doit être refoulé, et ça pompe une énergie absolument spectaculaire. Et on s'en aperçoit dans certaines séances de psychanalyse, quand on sort de chez psychanalyse, il y a des trucs qui ont sauté, parfois on ne se rend même pas compte de quoi, de ce qui s'est passé. Et alors, on descend, on dévale les escaliers, on est dans la rue, on a l'impression de peser 50 kilos de moins, c'est vraiment très spectaculaire. Hein. Malheureusement, ce n'est pas tous les jours. Et parfois, il faut de nombreuses années avant d'avoir ce petit truc là, c'est quand même très agréable, mais ce n'est vraiment pas tous les jours. Alors, le symptôme, si vous voulez, est le signe. C'est une théorie qui est vraiment très proche, une théorie très moderne, signifiante. Il y a un signifiant, je crois. Lacan n'a pas déliré à ce sujet-là. Le symptôme est le signe ou le substitut d'une satisfaction pulsionnelle qui n'a pas eu lieu. Et elle résulte, il résulte de processus de refoulement, là dans ce cas-là, sur l'ordre de surmoi. Surmoi refuse l'accès à la conscience d'une représentation qui est interdite, comme par exemple ici l'agressivité contre le père, elle est interdite parce qu'elle est trop dangereuse. Même si on dit c'est pas une histoire de castration, bah, évidemment, si vous vous entrez en conflit à 5 ans avec votre père, c'est sûr que ça entraîne quand même des désagréments extrêmement graves. Et donc il vaut mieux que ça n'arrive pas. Donc on refoule tout ça, et le refoulement entraîne le déplacement sur le cheval qui mord. Le plaisir attendu est évidemment, au lieu qu'il y ait un plaisir qui serait un plaisir, il y a une satisfaction à battre quelqu'un, à être sadique, et pour Freud, à partir du deuxième topic, il y a un plaisir ouvertement, l'agression procure un plaisir. Hein. Donc on ne comprendrait pas pourquoi les gens éprouvent tellement de plaisir à s'entretuer dans les guerres, parce que c'est la fin de la guerre de 14, il y a une incompréhension chez Freud, comment des peuples civilisés peuvent s'entretuer, comment il peut y avoir des millions de morts, comment on peut en arriver là, et comment certaines personnes, manifestement, en éprouvent un très grand plaisir. Donc c'est là où il met en place les deux pulsions antagonistes, pulsion de mort, pulsion de vie, qui serait l'une pulsion de vie qui est liée à tout ce qui unit, qui est de l'ordre de l'érotique, qui est évidemment ce qui unit Eros, et le deuxième, c'est la pulsion de mort qui est Thanatos, qui est tout ce qui désagrège. On dit, on postule, on dit ça c'est purement spéculatif, je n'ai aucune preuve de ce que j'avance, ça a été refusé par une immense majorité de psychanalystes. Lui, il en a l'intime conviction que chez l'être humain, il est très darwinien, donc il pense que tout être humain veut retourner à un état, justement comme je disais tout à l'heure, le déplaisir, le plaisir est simplement la baisse du déplaisir. Donc on veut arriver à un état minimal de tension, et donc la tension minimale, c'est la mort. Et donc pour Freud, c'est le retour à l'état inorganique, inanimé, qui est recherché par tout organisme vivant. Ça, c'est une théorie qu'évidemment, je ne peux pas la prouver, hein. C'est purement spéculatif. Mais on a du mal à ne pas y croire après ce qu'on voit, quand on voit ce qu'on voit. Bon, ça, on se demande pourquoi les gens ont un tel plaisir à s'entretuer quand même, ouais. À se tuer eux-mêmes, ce qui revient à la même chose, de retourner contre soi. Donc, si vous voulez, il reprend à ce moment-là, dans cette deuxième théorie, le cas du petit Hans, en le transformant un peu ses théories. Et à la lumière de ces nouvelles conceptions, qui proviennent donc, je viens de vous le dire, de l'expérience de la guerre, et en particulier des névroses traumatiques de guerre. Et il dit que quand un danger, ce que je disais tout à l'heure, quand le danger est extérieur, le sujet peut y échapper par la fuite. On court plus vite, évidemment, que l'objet dangereux. Quand la fuite est impossible, qu'est-ce qu'on fait quand le danger est tout à fait extérieur, matériel, par exemple, à la guerre, une bombe, enfin, n'importe quoi, le moi est soumis à des quantités d'excitation beaucoup trop intenses qu'il ne peut pas abréagir, enfin qu'il ne peut pas diminuer, et à ce moment-là, il se sent submergé et il éclate sous l'importance des sensations à cause de la violence des sensations auxquelles il est soumis, et à ce moment-là, c'est le moi qui éclate en mille morceaux. Alors, il y a des espèces de cas de folie, si vous voulez, avec des accidents extrêmement graves, où effectivement les gens... D'ailleurs, on a implicitement admis cette théorie dans les cellules de crise avec les psychologues, etc., les psychiatres, qui s'occupent des gens qui sont soumis à des chocs extrêmement graves dans les accidents d'avion, tous les accidents qu'on peut imaginer. Et on sous-entend quand même que le traumatisme... Alors lui, il pense que l'appareil psychique est protégé par quelque chose qu'il appelle le parexcitation, qui est plus ou moins fort souvent les individus, et qui dépend évidemment de la force contraire qui va s'exercer sur le parexcitation. Quand il y a un choc violent, inattendu et extrêmement intense, à ce moment-là, ce par excitation peut voler en éclats et l'unité même du sujet est mise en cause et le sujet a la crainte d'éclater, de se désintégrer. Et donc cette angoisse est extrêmement violente et évidemment on essaie d'y échapper. Alors, il y a un autre type d'angoisse, alors c'est les angoisses traumatiques sur le modèle. Alors il n'y a pas tellement encore d'accidents de voiture, d'avion, etc. Mais surtout tous les accidents de la guerre, évidemment, qu'il a pris comme exemple, puisqu'il y en a, tous les hôpitaux sont pleins à l'époque de ce genre de cas. Donc par ailleurs, il y a une angoisse qui provient de la crainte donc d'être submergé par un danger qu'il appelle réel, mais qui n'est pas extérieur, mais qui est réel et qui est interne, qui est pulsionnel. D'être débordé, non pas par quelque chose qui va vous détruire de l'extérieur, mais de l'intérieur, par une pulsion trop violente que vous n'arriverez pas à endiguer. Et ça, c'est aussi une angoisse très très nette chez beaucoup de gens, c'est comment je vais résister à mes désirs qui sont en fait destructeurs, qui m'amènent à la mort en réalité, et comment faire pour... et c'est une angoisse qui est extrêmement forte et que Freud prend en compte. Alors, chez les névrosés, il dit que l'élément primaire qui provoque l'angoisse est toujours, et c'est là qu'il y a une révision totale de sa théorie, l'angoisse de castration qui provient à la fois, c'est là où ça devient plus subtil, bien évidemment, à la fois de la crainte d'être castré par le père, bon, tué, etc., ce qui revient exactement au même, et séparé de la mère, parce que la castration, c'est pas simplement qu'on vous coupe le zizi, hein, c'est pas que ça. D'ailleurs, on s'aperçoit que l'angoisse de castration est tout à fait irréaliste, parce que toutes les représentations d'angoisse de castration, et là, Lacan a beaucoup insisté là-dessus, par rapport à la Grèce antique, les représentations du phallus, etc., etc., c'est que c'est couper le pénis à la base, mais les testicules n'ont absolument aucun rôle dans l'histoire. Hein. Alors qu'en fait, la castration, c'est pas le pénis, c'est les testicules. On s'y prie, mais enfin, on a fait des choses pas très agréables, les animaux en particulier. Et si vous voulez, là, c'est complètement irréaliste, évidemment, comme angoisse. Enfin, dit-il, maintenant, alors après, c'est dans Totem et Tabou, ça a été développé, c'était réaliste quand le père de la horde primitive castrait le fils pour qu'il ne puisse pas coucher avec la mère. Alors ça, il a pris de Darwin, c'est un darwinien, hein, convaincu. Hein. Alors ça a été hyper critiqué, ça, je n'entre pas dans les détails. Alors, si vous voulez, il y a une angoisse double, c'est l'angoisse donc de castration par le père, et d'autre part, l'angoisse d'être séparé de la mère, dont l'enfant est le pénis de substitution, si vous voulez. Et c'est par ce biais-là qu'il y a l'angoisse de castration, elle est double en fait. Hein. La mère, considérant quand son enfant est petit, évidemment, l'enfant comme un substitut du pénis, bien évidemment. Même si vous ne pensez pas, mais c'est comme ça. On s'en aperçoit dans les psychanalystes. Oui, c'est évident, mais il suffit d'en écouter. Bon, c'est évident que ça crabe les oreilles. Il faut vraiment se les boucher pour pas entendre. Et si vous voulez, dans ces cas-là, l'enfant aussi se considère comme le pénis de sa mère et on va le séparer. C'est aussi ça, l'angoisse de castration. C'est aussi l'angoisse de mort, puisque l'angoisse de mort, il dit que l'angoisse de castration est l'analogone de l'angoisse de mort. L'angoisse de mort n'est pas représentable dans l'inconscient, donc c'est représenté par l'angoisse de castration qui est à la fois être séparé de la mère et être castré. Alors, au sens psychanalytique et pas au sens propre, bien évidemment. Dans le cas de Hans, l'enfant donc avait peur, on a vu qu'il avait peur d'être mordu par le cheval, parce qu'il ressent une très forte agressivité contre son père, le tuer, le castrer, par la j'ai déjà dit. Et il le substitue, alors il reprend tout ça, il dit qu'il substitue le cheval au père, ce qui lui permet d'éviter de le détester, et parce qu'il aime également son père. La réussite du refoulement empêche donc la moindre allusion à la castration dans toutes ces histoires. L'enfant ne fait jamais allusion, on dit c'est pratique, il raconte n'importe quoi. Il dit que quand le refoulement est réussi, évidemment ça n'apparaît plus au niveau conscient. Donc c'est réussi. Et on n'a plus d'allusion à la castration, ni d'angoisse de castration, qui est en fait pour Freud, maintenant dans cette deuxième théorie, le principal moteur du refoulement. Ce n'est pas l'inverse, hein, c'est l'angoisse qui produit le refoulement, la crainte d'être soumis, terrorisé par l'angoisse de castration qui provoque le refoulement, et pas le contraire, comme c'était le cas avant. Donc c'est une sorte, il appelle ça un signal affect qui permet d'éviter le danger. Bonne solution, j'appelle tout ça, c'est on évite le danger. Il y a, l'angoisse est une sorte de signal, et immédiatement, il va y avoir refoulement pour éviter cette angoisse, et on évite toutes ces histoires de castration, d'angoisse de castration, de problèmes de père, la mère, etc. Alors, ce danger, je vous l'ai déjà dit, cette angoisse, si vous voulez, alors là, il fait un pas de plus, et il dit que toute angoisse, en fait, reproduit le traumatisme initial de la naissance. Et qui, en fait, dit-il, n'a pas été ressenti. Parce qu'il dit que quand l'enfant naît, il ne peut pas être angoissé par la naissance, puisqu'il n'est pas constitué en tant que moi autonome. Si vous voulez, il ne peut pas ressentir de l'angoisse, ce n'est pas possible. Mais d'après Freud, qui est vraiment un matérialiste convaincu, hein, il pense qu'il y a eu toute une série de perceptions extrêmement complexe au moment de la naissance, désagréable, d'où toutes ces histoires d'accouchement dans les piscines qui a tout le bazar, avec de l'obscurité, taratata, il semblerait qu'il y ait un traumatisme quand même. Au moins, quelqu'un qui est dans l'obscurité, l'enfant fait tout ce qui est dans l'obscurité, tout d'un coup, il se trouve à la lumière, bon, évidemment, c'est déjà désagréable, c'est froid, bon, enfin, etc. Il y a toute une série de sensations pénibles qui sont respiratoires, cardiaques, que tout se met en place à ce moment-là, et qui n'est pas agréable du tout pour l'enfant, c'est pour ça qu'il se met à crier d'ailleurs, et les poumons se mettent à respirer, enfin tout ce qui se passe, et à ce moment-là, il y aurait eu, d'après Freud, des inscriptions mnésiques, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit au niveau même des sensations corporelles à ce moment-là, qui va être réutilisé, réélaboré plus tard, mais pas sur le moment, parce que c'est impossible, puisque l'enfant ne veut pas avoir toutes ces idées, etc. Alors, c'est l'immaturité qui vont être reprises et réactivées lors des angoisses qui vont à chaque fois reproduire l'angoisse de la naissance. J'avoue que moi, j'y croyais pas. Pas du tout. Jusqu'à ce que, à la fin de mon analyse, j'éprouve ces fameuses angoisses à 2h du matin, à l'heure, parce que je suis vraiment très sceptique, même, je vais vous psychanalyser, mais en même temps, je suis une longue psychanalyse, en même temps, on y croit, mais c'est pas pour moi, c'est pour ça, hein. C'est toujours pour les autres. Moi, je suis bien plus normal que les autres. Et alors, quand j'ai eu des espèces d'angoisses psychotiques, alors que je suis vraiment pas psychotique, je peux vous l'affirmer, quand j'ai eu des angoisses à 2h du matin, je me dis, mais enfin, c'est pas possible, c'est l'heure de ma naissance, mais c'est pas possible que ce soit lié à ça, je yoyote, je suis fou, je suis en train de perdre les pédales, je sais pas ce qui m'arrive, mais je vous assure, des angoisses absolument intolérables, moi qui n'avais jamais été angoissé de ma vie, pratiquement, hein, parce que j'ai éliminé l'angoisse par les inhibitions. Bon. Et donc, c'est après que j'ai lu ça, et que du coup, je l'ai vu, parce que je l'avais lu avant, mais je l'avais lu, mais je l'avais pas vu. J'avais pas retenu. J'avais bien vu cette phrase, tout ce livre, j'avais lu je sais pas combien de fois. Et ça ne s'était pas inscrit. Parce que si vous voulez, je l'avais pas vécu dans l'analyse. Et donc, je m'étais pas rendu compte que cette phrase m'était passée inaperçue, totalement inaperçue. Et là, je me dis, ah bon, Freud aussi, il dit ça, donc je suis peut-être pas complètement fou. Et ça a disparu, mais du jour au lendemain, quand j'en ai parlé dans l'analyse. Je me dis, ouais, c'est bizarre. C'est peut-être vrai, alors, la psychanalyse, ça marche. Mais c'est sûr que quand vous passez par des angoisses de ce type-là, c'est pas très agréable, et je comprends qu'on veuille y échapper. Mais en fait, on veut échapper à quelque chose et on tombe dans quelque chose de pire, bien évidemment. C'est vraiment pas agréable, je dois le dire, tant que je l'ai pas ressenti, j'y croyais même pas. Hein. D'ailleurs, je l'avais même pas vu. Je l'avais pas retenu, c'est pour vous dire à quel point j'y croyais pas. Donc, si vous voulez, il a toute cette théorie qui est en même temps contre la théorie qui était celle justement d'un traumatisme de la naissance marquant, etc., d'un autre psychanalyste avec qui il se fâche complètement. Il pense qu'il dit des imbécilités. C'est pas Adler, c'est l'autre là dont il. C'est Autorank, ouais, Autorank, le traumatisme de la naissance. Et donc, il pense qu'Autorank dit un peu n'importe quoi, et puis il se sépare de lui, bon, comme de beaucoup d'autres analystes. Alors, il explique à ce moment-là, Freud, qu'il reconnaît qu'il n'arrivait pas à expliquer par quel mécanisme l'angoisse provenait des revendications refoulées de la libido, au départ, tourné un peu en rond, c'est vrai, et il dit, bah oui, parce que c'était faux, c'est pour ça que j'y arrivais pas. Et maintenant, il dit que la revendication pulsionnelle n'est pas en soi un danger intérieur. C'est pas parce que vous avez des revendications pulsionnelles, c'est-à-dire des désirs, et là c'est là où tout est remis en cause, hein, par exemple par rapport à la sexualité, au plaisir sexuel, qui n'est pas aux frustrations sexuelles, c'est pas parce qu'il y a des revendications sexuelles, des désirs sexuels non satisfaits, qu'il va y avoir de l'angoisse. C'est pas dû à ça du tout, du tout. Il va vous dire, la revendication sexuelle n'est pas en soi un danger intérieur, elle ne le devient que parce qu'elle entraîne un véritable danger extérieur, celui de la castration. C'est parce que l'enfant se rend compte que son désir, en fait, est de s'unir à sa mère et de se mettre à la place du père, qu'il y a un danger extraordinaire, dans la mesure où son agressivité contre le père se transforme en une crainte de l'agressivité du père contre lui-même. Et c'est contre cette agressivité qu'il va y avoir, c'est à partir de cette agressivité qu'il va y avoir, refoulé, qu'il y a une angoisse de castration qui va apparaître, et l'angoisse va apparaître. Et non pas parce que la satisfaction n'est pas donnée. Donc, si vous voulez, le contenu de l'angoisse demeure toujours inconscient dans cette théorie, parce que c'est refoulé, et ne devient conscient que sous un aspect déformé, c'est ce qu'on a vu, c'est la peur du cheval, non pas du père, Le moi veut y échapper à l'hostilité du surmoi castrateur qui le menace en fait de mort. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un peu anticipé, c'est la neurone de la castration. Donc si vous voulez, et il ajoute Freud qu'en fait le moi est préparé à toutes ces représentations concernant la castration par des expériences antérieures que François Zolto va reprendre en parlant de castration anale, orale, etc. Bon, de toute façon, c'est tout un peu discutable. Il ne dit pas la même chose exactement, mais ça vient de Freud, en fait. Il dit que le moi est préparé à cette représentation de la castration, qui est déjà quelque chose d'extrêmement élaboré. Les psychotiques n'ont pas accès. Normalement. Encore plus compliqué que ça dans les faits, mais bon, c'est déjà... Quand on est névrosé, c'est bien, déjà. Attention. Attention, hein, c'est qu'on est déjà dans les couches... c'est que ça va déjà plutôt bien. Il faut bien savoir que chez les psychanalystes, la structure névrotique, c'est la structure normale. Il n'y a rien, y a rien d'autre. Hein. Donc, si on a accès à l'angoisse de castration, complexe d'Oedipe, etc., etc., tout va plutôt bien, en fait. Hein. Il vaut mieux ça que d'avoir des hallucinations, d'avoir un genre de la psychose. C'est quand même nettement plus angoissant. Alors, il dit que le moi est préparé à la castration par des expériences de perte orale. Et ça, c'est Mélanie Klein qui va le développer en étudiant beaucoup les enfants, la perte du sein. Hein, le sein qui nourrit au départ l'enfant, il voit que ça, bien évidemment. Il n'y a que des satisfactions orales pour le petit bébé, le nourrisson, il n'y a pas d'autre. Il est tactile, hein, c'est lié. Tactile et oral et anal, ensuite, quand il est plus âgé, tous les problèmes de séparation, quand il commence à maîtriser ses sphincters, etc., de séparation avec ce qui va être assimilé ensuite à l'enfant, au pénis, etc. Il y a toute une série d'assimilations. Et donc, entre les objets qui peuvent tomber, d'où les conceptions de Lacan, ensuite de l'objet petit a, ce qui peut être séparé du tout. Vous pouvez vous séparer de la mère, mais de la même façon, il y a des choses qui se séparent de vous, mais vous continuez à exister quand même. C'est ça le truc. Hein. C'est pas parce que vous perdez les fesses, F-E, accent grave, que vous allez être détruit. Sauf si vous êtes vraiment très malade. Hein. Mais chez les enfants normaux, bon, c'est accepté au bout d'un moment. C'est pas parce que vous avez des frustrations orales que vous allez disparaître. Ça aussi, c'est quand même un peu grave. Alors évidemment, chez les drogués, le problème est là. Hein. C'est qu'il faut qu'il y ait des satisfactions orales permanentes. C'est le cas jusqu'à ce que mort s'en suit. C'est recherché, c'est évidemment... moi, je terrorise comme ça très rapidement. Hein, enfin, pour donner une petite idée un peu concrète, vous êtes dans ces pertes orales. Là, c'est des gens qui sont dans l'oralité vraiment absolue, dans l'avidité orale. C'est quand même les drogués, en particulier l'héroïne, les drogués vraiment très graves. C'est pas fait un petit vin de temps en temps. Hein, voilà. Une drogue absolument ridicule. Boire un petit verre, bon, tout ça. Ouais. C'est comme avaler un peu de l'exomie, c'est tout le monde. Hein. Mais si vous voulez, là où c'est vraiment grave, on ne peut pas vivre sans. Là, c'est gravissime, mais justement, on ne peut pas supporter aucun type de frustration orale. Il faut être en permanence, il faut avoir de la... C'est-à-dire, quand on est en drogue, c'est en état de manque, c'est vraiment dramatique. Pour soigner ça, comme c'est très archaïque, très primaire, c'est très, très difficile. Et cette crainte, justement, de perte de la satisfaction orale, de l'objet au niveau oral, il dit que ça prépare, de même qu'au niveau anal, qui est un peu plus tard dans l'évolution de l'enfant, c'est pas les 6 premiers mois ou la première année, c'est après, quand la maîtrise des sphincters, c'est ça qui va préparer à cette conception en quelque sorte infantile de la castration, qui va empoisonner les adultes ensuite, hein, qu'ils le veuillent ou non, et mais c'est quelque chose d'absolument naturel, et c'est ce qui fait vivre les psychanalystes, bien évidemment. Voilà. Alors j'ai terminé, j'ai essayé d'être le plus clair possible, pour moi-même d'ailleurs. Et si vous avez des questions, je les attends, si j'arrive à y répondre, de pied ferme. Peut-être. Je sais pas, il doit y avoir beaucoup de choses qui se fixent autour de la date anniversaire, bien évidemment. Hein. Oui, je me demande si vous n'avez pas raison, parce que très souvent, ça va pas bien avant l'anniversaire, puis après, ça va beaucoup mieux après, très souvent. Hein. J'ai remarqué ça, mais honnêtement, je pourrais pas répondre à ça. Je n'ai pas une expérience suffisante au niveau... Moi, j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai eu des consultations, etc., mais j'ai pas de passé en ce moment. Je ne prends pas la fac et j'ai pas le temps. Et alors, j'hésite beaucoup, je me tâte, tout, mais enfin, encore... Côté obsessionnel, oui, non, peut-être. Mais si vous voulez, à l'hôpital, j'ai pas tellement vu ça. Je m'en souviens pas d'avoir vu. Je pourrais demander aux autres psychanalystes qui vont venir de vous répondre. Si vous voulez, les catégories nosographiques sont très très discutées et elles évoluent suivant le temps, suivant les époques. Par exemple, au départ, il n'y avait que de l'hystérie. C'est les hommes, c'est les femmes, c'est tout le monde. Hein. Et puis Freud a inventé le concept de névrose obsessionnelle, qui est plutôt le cas des hommes, et la névrose, enfin, l'hystérie est plutôt du côté de... Et il y a des névroses phobiques et vous dites des névroses angoisses. Tout ça est réfuté totalement par la psychiatrie américaine, par exemple. Alors, totalement. J'ai pas vu le nouveau DSM, là, parce que ça m'intéresse pas. Le DSM-5, mais déjà le DSM-3, c'est tout pour moi absurde. Enfin, pour moi, c'est absurde, parce qu'il n'y a plus d'unité de la maladie, il n'y a plus que des symptômes. Alors, vous avez tel symptôme, il y a tel médicament. Trac. Et c'est comme ça qu'on soigne les gens. Je vous dis pas les catastrophes. Hein. Pourquoi? Ah ben parce que je l'ai vu, c'est tout, j'ai remarqué, parce que vous ne soignez pas l'individu dans sa totalité, vous soignez des symptômes. Alors, c'est comme vous prenez du Lexomil parce que vous avez de l'angoisse. Bien sûr, vous faites disparaître l'angoisse momentanément, vous êtes obligé d'en prendre le lendemain. Ah ben oui, vous travaillez peut-être dans les hôpitaux, non, non. Oui. Moi, j'y suis pas actuellement parce qu'il paraît que ça fait des ravages supplémentaires par rapport à ce que ça a fait avant. S'il y avait des petites cases à remplir, si vous voulez, alors on a tel symptôme, etc. Alors il n'y a plus les entités névroses, psychoses, c'est plus comme avant, il y a tout un tas de symptômes. Je l'ai pas vu ce nouveau DSM, mais ça semble catastrophique. Et j'ai vu sur des proches de ma famille ce que ça a donné. Hein. Il a fallu les arracher aux griffes de ces individus dangereux, et à la limite, un médecin généraliste fait mieux l'affaire qu'un psychiatre dans un hôpital psychiatrique maintenant. Hein. C'est ça le cas. Enfin, si le médecin est quand même le jugeote. Et moi, c'est simplement ça que j'ai vu que ça m'a l'air de provoquer. Alors, il y a des psychanalystes qui travaillent beaucoup à l'hôpital qui pourraient vous donner des. Plus récemment, parce que moi, ça fait 10 ans que je ne suis plus. J'y étais pendant 3 ans, donc ça fait un peu moins maintenant. J'étais encore au DSM-3, maintenant au DSM-5. Il semble que les choses se soient encore aggravées. Mais je voyais déjà à l'époque l'impossibilité à soigner toute une série de patients. Alors, les névroses, je vous en ai dit tout à l'heure, tout ce qui est névrose, c'était. Mais même des choses graves, où les gens, des hystériques qui restaient dans leur lit, qui ne bougeaient plus, qui éliminent tout un tas de maladies. Les hystériques actuellement, si vous voulez, c'est plus les, elles n'ont plus des problèmes de locomotion, des paralysies, des hystéries de conversion, mais elles éliminent ce qui est à la mode, c'est-à-dire elles ont des dépressions, c'est des fausses dépressions. Alors, on leur demande perfidement, vous mangez, vous dormez, ah oui, 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 très très bien, d'accord. Vous avez une dépression, vous ne mangez plus, vous dormez plus. Il n'y a pas question d'une vraie dépression, on ne mange pas, on ne dort pas. Et oui. Historique, qu'est-ce que vous voulez dire mais... Ah, d'accord. Non, parce qu'il a trouvé que c'était un cas particulièrement intéressant qui éclairait la suite. Oui. Qui se serait passé dans l'enfance.
Alors, non, non, alors qu'aujourd'hui, justement, on est incorporé à la totalité de la société, il se crée une quantité d'angoisse, qui est très, 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 très,
l'expérience montre que les gens qui se retrouvent, j'ai écouté pas mal d'émissions à la radio là-dessus, moi c'est ce que je pense, je crois que soit c'est des alcooliques, soit, alors si vous voulez, les gens qui se retrouvent dans ces situations, où ils se trouvent en situation de faiblesse quand même, il y a aussi la réalité, qui est la réalité sociale, hein, bon, c'est évident, mais il y a aussi, c'est quand même le plus faible hein, qui fait qu'on a l'histoire, psychiquement aussi. Et c'est très souvent des psychotiques, très très souvent, la plupart. Et c'est aussi parce que maintenant dans les hôpitaux, on a supprimé tellement de lits pour faire des économies que les psychotiques sont dans la rue. Et donc, vous avez des gens que vous diagnostiquez du trottoir d'en face. C'est extrêmement facile. C'est très, très très facile de diagnostiquer un psychotique qui peut-être n'aurait pas décompensé s'il avait gardé son statut social. Il n'a pas perdu son travail. Il y a plein de gens qui sont psychotiques et qui ne sont pas fous. Ils n'ont pas d'hallucinations, ils vont très bien. Mais si vous voulez, ils sont plus fragiles que les autres, bien évidemment, ou ils sont dans des situations dramatiques qui fait qu'ils vont décompenser et que tout va se déglinguer. Ils vont se retrouver dans la rue. Et en plus, on ne va pas les soigner. Ils ne seront pas à l'hôpital. Ils seront sur le trottoir, dans la rue, avec, moi j'ai vu dans le métro, mais des choses, c'est à pleurer. Hein. Oui, mais c'est qu'il y a une structure avant. Freud dit une chose très importante. Il dit qu'on ne décompense pas n'importe comment, c'est comme les cristaux. C'est-à-dire que les gens, c'est pas parce qu'il va se passer une chose que chez n'importe qui, il va y avoir une conséquence identique. Évidemment, si vous n'êtes pas soumis extérieurement à quelque chose d'extrêmement grave, comme la perte de l'emploi, votre femme vous quitte, vous retrouvez dans la rue, problème de loyer, enfin des horreurs, il est évident que vous risquez de ne jamais décompenser. C'est très possible. Mais par contre, si vous décompensez, ça sera suivant les lignes de fracture du cristal, dit-il. Si vous avez une structure psychotique, il n'appelle pas ça encore comme ça à l'époque, ça va être sur ce mode-là. Si c'est névrotique, ça sera sur le mode névrotique. Ça ne sera pas l'extérieur qui va déterminer la structure. C'est la structure, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas grave quand même. C'est pas parce qu'on a une névrose, que la névrose n'est pas aussi grave que la psychose, hein, faut pas croire, ou que les alcooliques, etc. Ça peut être extrêmement grave. Les gens, ils peuvent se suicider quand ils sont névrosés. Et donc, c'est aussi grave qu'autre chose, même si on a l'impression que c'est moins grave, parce que c'est moins archaïque, etc. Donc moi, personne ne nie, je crois, chez un psychanalyste sain, l'importance de ce qui se passe dans la réalité. Mais moi, j'ai eu le cas vraiment extrême des camps de concentration. Hein, on va faire pire que ça. Bon, et ben les gens, ils n'ont absolument pas tous réagi de la même façon. Et on s'est, moi, je me suis rendu compte avec un collègue. Il avait été à Auschwitz. Il était juif. Ces juifs qui ont été particulièrement résistants, dont parle Primo Levi, les juifs d'origine grecque, les juifs d'origine espagnole. Moi, ma mère est d'origine espagnole. Je vois ce que c'est. C'est des gens particulièrement costauds, je crois. Je ne sais pas pourquoi ils s'émerveillent de leur résistance dans les camps de concentration, etc. Bon. Alors, ce type-là, c'était un cas comme celui-là. Il avait son numéro et tout le bazar. Bon. Il disait que toutes les nuits, il avait des cauchemars épouvantables, que son lit était un champ de bataille. Là, ça revient au traumatisme et tout, etc. Et il a suivi quand même des gens qui ne veulent plus en entendre parler, voilà, ils ne suivent pas de traitement et tout. Il était déjà assez âgé, était proche de la retraite, il a suivi des psys, une psychothérapie, je crois, même une psychanalyse, je ne me rappelle plus, et il m'a dit qu'un jour, il s'était rendu compte que des angoisses qu'il avait, bien qu'il ait été soumis à des faits réels extraordinairement angoissants, bien évidemment, et bien que ça provenait, même chez lui, d'un souvenir infantile qu'il avait traumatisé. Alors moi, ça m'a scié, mais lui, il n'y croyait pas d'abord, il a été affirmatif. Et je me demande s'il n'a pas un peu raison. Alors, c'est très compliqué. La question que vous posez est horriblement compliquée, en fait. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport. D'abord, les gens ne sont pas également équipés hein, sur le plan psychique pour résister. De même qu'on n'est pas également équipé pour résister à un salaud dans un boulot qui veut votre peau et qui veut vous foutre à la porte. Moi, mon frère, il a été soumis à plusieurs reprises, était ingénieur, intelligent, etc., à des choses dont on parle maintenant, mais dont on ne parlait pas à l'époque, donc on ne se méfiait pas. Comme c'est un scientifique, il était un peu naïf. Et donc, il s'est fait démolir carrément. Hein. Il a eu une dépression épouvantable, perdu son travail, etc. Il s'est fait des plans qui avaient sa peau carrément, mais au sens propre, hein, pour pas qu'il devienne directeur de l'usine. Ils ont fait des choses inimaginables dont il ne s'est pas rendu compte. Donc là, c'est vraiment du réel. Hein. C'est pas. Et pourtant. Je ne pense pas que ça suffise. Moi, je suis sûr. Bon, c'est un peu immodeste de ma part. Hein. J'ai d'autres problèmes. Hein. Je ne parle pas. Mais je pense que j'ai été soumis à des pressions extérieures à l'armée en parlant, je vais résister, hein. Je n'ai pas obéi, je vais les balader, mon chef, je ne l'ai pas salué pendant un mois. Je ne parlais plus, je ne le voyais plus, il était transparent pendant un mois, il ne savait plus quoi faire. Hein. Personne n'a jamais rien dit. Ça, vraiment, on n'est pas équipé de la même façon. C'est injuste, c'est comme ça, mais c'est comme ça. Moi, je ne me serais pas laissé faire, j'en suis sûr. Maintenant, peut-être que si la pression avait été suffisamment forte, ça aurait fini par craquer quand même. Je ne sais pas. Il faut voir d'une part comment on est constitué soi personnellement et comment de l'autre côté, quelle est la force de la pression qui est plus ou moins forte. Moi, je suis à l'université. Évidemment, il y a des saloperies comme partout à l'université. Mais quand même, je sais que de toute façon, je garderai mon travail, qu'on ne me mettra pas à la porte et que je ne me retrouverai pas dans la rue. Je n'aime pas énormément, mais bon, je survis quand même. Hein. Bon, si vous voulez, je ne suis pas à plaindre à ce point-là. Maintenant, je serai dans le privé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi d'être dans le public, j'en sais rien. Et je ne sais pas comment je réagirai. Je dis je réagirai mieux que mon frère. Pas sûr, peut-être que par cette attitude, je me serais fait virer tout de suite, j'en sais rien. Donc c'est très très difficile de répondre à ce genre de questions, parce qu'il y a trop de facteurs qui sont en cause, à mon avis. Et Freud, de toute façon, pense, ça alors là, jusqu'à la fin, il pense qu'on ne décompense pas, comme on dit maintenant, on ne décompense pas n'importe comment. On décompense en fonction de la structure, on dirait aujourd'hui, de la structure. Il parle de la structure du cristal, c'est-à-dire d'une structure psychique établi, et suivant la façon dont on s'est constitué, on va avoir un trouble psychique qui correspond. Alors ça peut être de la dépression, soit on va virer, soit on va se droguer, soit on va boire, enfin n'importe quoi. Et il va y avoir des réactions très très différentes, suivant, je crois, la violence de la force qui va s'exercer sur vous, du soutien que vous pourriez avoir autour de vous, bien évidemment, qui vous permet de résister, c'est un soutien familial, c'est des gens qui vous aident, etc. Il va y avoir plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte, mais moi personnellement, je pense vraiment que, comme Freud, parce que ça il le pense quand même à la fin, il le pense vraiment, hein, que ce sont les... Oui. 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 Pourquoi? Je ne comprends pas. Ah oui, vous avez peut-être raison. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il a peut-être réussi à élaborer. Non, mais c'est quand on voit dans des livres des choses, vous les voler. Tant que vous n'êtes pas passé, il y a des expériences, tant que vous ne les avez pas vécues, moi personnellement, c'est fréquent. Hein. Vous y croyez sans y croire. Je ne dis pas que j'y crois pas comme une religion. Mais si vous voulez, vous dites oui, oui, bon. Ça vous laisse relativement indifférent, c'est ça que je veux dire. Puis vous dites, bon, oui, peut-être, ça ne tire pas trop votre attention, c'est plutôt ça que je voulais dire. Hein. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que, ben, si, quand même, peut-être que... Alors, est-ce que c'est une construction que vous avez fait vous-même? C'est possible. Je ne suis pas sûr. Spontanément, comment spontanément? C'est très compliqué ce problème, parce qu'on a une espèce d'adhésion à une vérité que l'on sait intuitivement cachée, c'est ça ce qui est refoulé, on le sait déjà tout ça, mais on le sait sans le savoir, et on le sait sans trop vouloir y croire, et en même temps ça dépend des structures, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de refoulement, ou moins que d'autres, hein. C'est pas la même chose, c'est plus ou moins fort souvent les structures psychiques, et vous avez des cas où justement... on sait sans savoir, si vous voulez, c'est là, c'est tout le monde sait l'histoire du complexe d'Oedipe. Vous commencez maintenant, il n'y a pas un analysant qui ne connaît pas le complexe d'Oedipe et toutes ces histoires-là, ils savent déjà. Bah, ça n'empêche pas que, alors on ne peut pas dire qu'ils n'y croient pas, puisqu'ils vont voir un psychanalyste, mais en même temps, c'est pas devenu une conviction vraiment intérieure, tant que ça n'a pas été revécu dans le transfert. En fait, c'est ça. C'est tant que ce n'est pas vécu dans le transfert, ça n'a pas d'effet. C'est pour ça que le lire, ça sert à rien. Enfin, rien, à vraiment pas grand-chose. Hein. Et que même, à la limite, on comprend ce qu'on a lu après être passé par l'expérience dans le transfert. Parce que, si vous voulez, pour Freud, pour comprendre ça, pour que le transfert, parce que moi j'explique à mes étudiants, en littérature et psychanalyse à la Sorbonne, je suis le seul d'ailleurs en espagnol à avoir un séminaire de littérature et psychanalyse, je viens de découvrir ça, c'est quand même un exagère. Il pourrait y en avoir en littérature française. Hein. Et le transfert, ça veut dire quoi? Transfert, c'est passer d'un endroit à un autre. Et pour Freud, le transfert, c'est quasiment, c'est die Übertragung, qui est, il y a deux termes en allemand, il y en a un qui dit, qui est die Übersetzung, qui est la traduction au sens propre. Et il y a die Übertragung, qui est l'adaptation, une traduction, un des sens de Übertragung, qui a donné en français le mot transfert. Et c'est pour ça que je vous dis qu'en allemand c'est plus facile, parce qu'en allemand, un allemand il va comprendre dans transfert à la fois ce que nous on appelle transfert, et en psychanalyse, il faut savoir ce que c'est d'abord, et deuxièmement, ce que l'on entend par traduction. Parce que pour Freud, qu'est-ce que c'est que finalement la psychanalyse? C'est, il le dit dans l'interprétation des rêves, au début d'un chapitre, qui est extrêmement clair, il vous explique que, en fait, l'inconscient, c'est pour ça que Lacan va dire l'inconscient est structuré comme un langage. C'est pas que c'est un langage, hein, il dit que c'est structuré comme un langage. Et donc, il va y avoir une traduction nécessaire d'un langage inconscient qui est inaccessible, dont vous avez des manifestations dans le rêve, dans un langage qui est le langage que nous connaissons. Donc c'est un problème de traduction, il le dit, hein. Il dit c'est comme le décryptage des hiéroglyphes. C'est exactement pareil. Et le transfert, c'est pour ça que c'est le même mot, le transfert amoureux ou l'amour de transfert que l'on a sur le psychanalyste, c'est exactement la même chose. Il y a un cadre où va se traduire pendant l'analyse, qu'on s'en aperçoive ou pas, parce que parfois personne ne s'en aperçoit, ni le patient, ni l'analyste, il y a des choses qui vont émerger, qui proviennent de l'inconscient, qui se traduisent par non seulement ce que vous dites, en langage tout à fait qu'on utilise habituellement, mais en même temps en acte, en la façon de payer, la façon d'arriver à l'heure, en retard, enfin, etc. Tous les rapports que vous avez avec votre analyste vont traduire quelque chose qui est de l'ordre de l'inconscient. Et donc, à ce moment-là, vous avez systématiquement une traduction. Donc, d'un point de vue psychanalytique, ça ne peut pas être tout à fait une construction gratuite, même si c'est une traduction. Alors, c'est évident qu'une traduction n'est jamais exacte et qu'on n'a jamais accès à l'inconscient. Enfin, d'ailleurs, c'est pratique, on n'y a pas accès, on peut inventer n'importe quoi. Bah oui, c'est vrai, c'est la première idée qui vient à l'esprit. Vous dites, bon, puisqu'on n'y a jamais accès, c'est ça qu'il faut quand même savoir, c'est qu'à partir du moment où vous avez quelque chose, l'inconscient, par définition, on n'y a jamais accès. On ne sait pas ce qui s'y passe. C'est impossible. On ne sait pas. On ne sait même pas dans quel langage c'est écrit, on ne sait rien du tout. Le rêve, ce n'est pas de l'inconscient, il faut faire attention. Le rêve n'est pas de l'inconscient. C'est une manifestation de l'inconscient. Il y a déjà une traduction dans le langage du rêve qui est déjà élaborée avec des symboles, qui sont des symboles qui sont également réélaborés au niveau du langage, c'est-à-dire des processus secondaires, avec des choses, tout est retraficoté pour que ça ait l'air logique, etc. Et pour aboutir à essayer de voir ce qui est en dessous de tout ça, qui est une traduction du conscient, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire, on en parlait avec un spécialiste espagnol, là. C'est que déjà, vos rêves sont complètement élaborés, suivant votre culture, suivant les langues que vous connaissez. D'ailleurs, comme il n'y a pas de langage dans l'inconscient, de langue. D'ailleurs, le français, il n'y a pas de français dans l'inconscient. Hein. Pour Freud, il est formel. Il y a un langage, on ne sait pas lequel c'est, qui est un peu assimilé au hiéroglyphe, qui n'est pas encore décrypté, et de l'autre côté, vous le traduisez en français quand vous parlez. Mais ce n'est pas la même chose. C'est un équivalent, et un équivalent très imparfait. Et déjà, quand vous racontez vos rêves, vous les avez déjà traduits dans un récit et dans une histoire avec des mots qui sont eux-mêmes une traduction, et leur rêve lui-même a déjà été réélaboré comme une œuvre, si vous voulez, littéraire, et n'est pas de l'inconscient pur non plus. On n'a jamais accès directement à l'inconscient. C'est ça qui est fondamental chez Freud. Hein. L'inconscient est totalement inconnaissable en réalité, sinon indirectement par des traductions. Alors, évidemment, vous me dites, c'est une construction. Bah oui, mais moi je vous dirais, bah oui, mais c'est une construction qui correspond à une traduction plus ou moins précise de ce qui doit se tramer dans l'inconscient. C'est pour ça que l'analyse est interminable, puisque c'est de la nature même du langage qui est du refoulement. Il y a un refoulement qui est dit originaire chez Freud. Donc vous avez des représentations qui sont revues, c'est comme ça que le langage se constitue. Et d'un côté, Mais les processus secondaires qui se trouvent dans le subconscient, ça c'est la première topique, mais là je vais m'abandonner ça quand même, hein, dans le subconscient et le conscient, et de l'autre côté, vous avez ce qui est refoulé dans une théorie du langage qui est antérieure à ces écrits psychanalytiques et que personne ne lit, qui se trouve dans un texte de 1890-91 qui s'appelle, en français je ne sais pas, vous allez croire que c'est très savoir, mais non, c'est pas le cas, mais je me rappelle que c'est une contribution à une étude des aphasies. D'ailleurs, il a dit des choses qui sont gardées aujourd'hui sur le plan de comment fonctionnent les aphasies, etc. Et donc, vous avez, sur Aufassung der Aphasien, vous avez une représentation de l'appareil du langage, avec la façon dont le langage va se constituer uniquement dans le conscient d'impression. Il n'y a pas, c'est pour ça que les Lacaniens, ils débloquent un petit peu, quand ils parlent de signifiant, c'est pas la même chose que chez les linguistes, parce qu'un signifiant, c'est lié à l'image acoustique, si vous voulez, qui est ce que Saussure appelle le signifiant, et ce que Freud appelle l'image acoustique. Donc c'est très proche des théories du signe et de Saussure, etc. Si vous voulez, il va y avoir d'image acoustique que dans le conscient et dans le préconscient, qui vont traduire des représentations dont elles sont scindées au moment du refoulement originaire. Mais s'il n'y avait pas ça, on ne parlerait pas. On serait toujours collé à la mer, si vous voulez. Et on n'aurait pas accès ni à la conscience ni au langage. Donc si vous voulez, ces constructions qui peuvent avoir l'air imparfaites ou des espèces... D'ailleurs, Freud parle justement de construction à la fin de sa vie. Il y a un article qui s'appelle « Construction dans l'analyse », qui est absolument fondamental, où il montre qu'on n'a que des petits bouts minables, en fait, hein, qui sont, c'est comparé à l'archéologie, on va avoir des tessons, des petits bouts de poterie, des petits machins, etc. Et à partir de ça, vous allez reconstituer, mais c'est une construction qui est faite par l'analyste d'après lui, mais par le patient aussi. Alors peut-être que c'est une construction, effectivement, dans un langage qui n'est pas celui de l'inconscient, mais c'est obligatoire. Alors qu'elle soit fausse, ça c'est possible. Et parfois, ces constructions sont archi fausses. On voit bien parce que les gens continuent à être malades, à être très mal. Donc, manifestement, avec les lacaniens délirants, ils vous disent, voilà, c'est le signifiant truc-muche. Dans leur esprit, en plus, il y a des signifiants qui sont des mots qui appartiennent à la langue, qui vont se retrouver dans l'inconscient. Alors ça, pour Freud, c'est impossible. Ça veut pas dire que Freud a raison. Donc, je pense que l'inconscient, comme il est antérieur à la constitution du langage, il ne peut pas contenir lui-même du langage. Mais tout ce qui n'est pas conscient n'est pas inconscient. On sait que Freud a créé le concept de pré-conscient. Vous savez très bien que quand vous dormez, vous avez déjà tout un tas de... Vous entendez plein de trucs, en fait, vos sens sont en éveil. Et quoi qu'on en dise. Et vous arrivez à réfléchir, à travailler, c'est le truc absolument habituel. Vous vous couchez, vous ne savez pas, vous lisez un texte, et puis le lendemain, l'explication du texte, elle est faite toute seule. Vous essayez de faire une équation, et le lendemain, crac, elle est résolue. Elle s'est résolue pendant le sommeil, mais pas au niveau inconscient, au niveau préconscient. Mais c'est les mêmes processus qui sont en action dans la veille, qui sont en action pendant le sommeil ou au niveau préconscient. C'est ça que dit Freud. Et donc ça, c'est de cet ordre-là, préconscient, conscient. Parce que le conscient, c'est quelque chose qui s'efface en permanence. Hein. Parce que si jamais il y a un texte de Borges qui est très intéressant, qui s'appelle Funes et Memorioso, si dans la conscience, on gardait inscrit en mémoire tout ce dont on se souvient, on exploserait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, il faut que ça s'efface en permanence pour avoir des nouvelles perceptions. Mais ça reste quelque part en magasin, en quelque sorte, et c'est accessible, et c'est ça qu'il appelle la première topique. Hein. Vous avez ce qui est conscient, qui est fugace, c'est sur le moment même, je vous vois, je regarde là, je ne vous vois plus, évidemment. Mais ça reste quand même, j'ai une vague notion que je viens de vous voir. Non, j'aurai un problème. Aussi, je n'aurai pas conscience de moi-même en tant qu'individu et qu'être humain, enfin comme personne. Et alors, ça s'efface au fur et à mesure, mais c'est engrangé dans le préconscient. Mais il n'y a pas de nécessité de refoulement, parce que le surmoi n'a pas besoin, c'est simplement parce qu'on ne peut pas faire autrement, si vous voulez. Sinon, c'est très drôle, il est très anti-psychanalytique, Borges, mais en fait il est très proche. Funes et Memorioso, c'est le genre des idiots intelligents qui apprennent le bottin par cœur. Donc il sait tout, mais à la fin de sa vie, il explose. Il meurt d'une congestion cérébrale tellement qu'il accumule, puisqu'il ne peut rien effacer. L'effacement d'une mémoire imparfaite est absolument nécessaire pour fonctionner normalement. Sinon, vous vous rendez compte, si on se rappelle d'absolument tout, ça serait affreux. Mais ce qui ne veut pas dire que c'est la même chose que ce qui est refoulé. Ce qui est refoulé, c'est un processus dynamique qui fait que l'on refoule de ce qui est refusé par le surmoi chez Freud. Hein, toujours chez Freud. Hein. Théorie, après, vous avez Lacan. Donc, mes collègues vont vous parler de Lacan. Vous verrez ça plus tard. Je ne me risque pas à aborder Lacan, parce que moi, je deviens fou quand on parle de Lacan. Et en même temps, je vois bien avec même Delia Cagna, il y a des moments, c'est moi qui leur explique alors que j'y comprends rien. Alors, je me dis quand même, c'est pas possible. Ils me disent, à un moment, il y a une collègue qui me dit, c'est toi qui parles ou c'est Lacan? Ben, je dis, enfin, je suis en train de vous lire un passage de Lacan, c'est pas moi. Et je me dis, bon, ça, c'est incroyable. J'entends des trucs qui sont parfois vraiment délirants. Bon, vous allez avoir ici sûrement des gens qui vont faire des conférences, qui sont vraiment très très forts, qui connaissent très bien Lacan, mais c'est vraiment très dur maintenant. Moi, modestement, je m'en tiens à Freud, c'est déjà assez compliqué comme ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que vous êtes épuisé. Comme moi. Merci.